Les sciences.
Les sciences.
La connaissance.
La connaissance.
La connaissance.
L'histoire.
La nature.
La
nature.
La médecine.
La médecine.
La médecine.
L'éthique.
L'éthique.
La psychologie.
La psychologie.
Les arts.
Collège Belgique.
Collège Belgique.
Collège Belgique. Lieu de savoir.
Aujourd'hui, ce que je vais dire sur la méthode scientifique est banal, mais pour quelqu'un comme moi qui a quand même lu beaucoup d'épistémologie, quand j'ai découvert un des livres dont je vais parler, enfin, une partie du livre de Susan Haack qui s'appelle Defending Science Within Reason, j'ai trouvé que c'était un livre finalement très intéressant, même s'il était, in fine, les conclusions étaient relativement banales. Et je trouve que vu l'impact de toutes les discussions qu'il y a autour de l'œuvre de Popper, de Serge de Vienne, de Kuhn, de Feyerabend, etc., je pense qu'il y a un aspect de démystification qu'elle fait du problème qui est posé, de la problématique tout entière de l'épistémologie, et je pense que c'est assez important. Je voulais aussi souligner quelque chose que je n'ai peut-être pas dit la fois passée, à savoir que l'épistémologie est quelque chose dont on entend, à mon avis, beaucoup parler dans les universités. Je pense que les gens entendent plus parler de science à travers les travaux, ce qu'ils entendent des travaux de Popper, Kuhn, etc., qu'à travers des travaux d'Einstein ou de Darwin. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens en lettres, enfin, si on retire la médecine, en tout cas, il y a beaucoup plus de gens en lettres et en sciences humaines qu'en sciences, ou en sciences appliquées, et les étudiants ont partout des cours de philosophie, y compris en sciences, mais dans les cours de lettres et de sciences humaines, il n'y a pas un seul cours de sciences naturelles. Donc, il y a une asymétrie, et s'ils entendent parler de quelque chose, c'est dans les cours de philo, ou éventuellement les cours de sociologie, où ils vont avoir une analyse sociologique de la science. Donc, je pense que c'est un sujet qui a quand même de l'importance, même si les conclusions sont relativement banales. Alors, on va voir si ça se réveille et si ça marche. Voilà. Alors, bon, ici j'ai mon plan. J'avais fait la question d'idéalisme, etc. Le programme aujourd'hui, c'est la critique de l'épistémologie. Je vais me baser sur un article qui s'appelle « Kuhn et Dante » d'un philosophe américain qui s'appelle Tim Maudlin, qui est publié en fait en français dans la revue de l'université, la revue philosophique de Louvain, en fait, et uniquement en français, bien qu'évidemment lui l'a écrit en anglais. Et puis je vais défendre la thèse de Susan Haack dans ce livre « Defending Science », et particulièrement un chapitre qui existe aussi en français qui s'appelle « Le bras long du sens commun ». Et puis je viendrai à la question du tri. Donc en principe, je vais essayer de faire les deux premiers points pendant la première partie. Et si j'ai du temps, mais je pense qu'on n'aurait pas du temps, je formulerai la question de l'empirisme, si vous voulez. Comme mon but est un peu de défendre l'empirisme, je viendrai sur ce que l'empirisme a été historiquement et la critique de ce que Kant appelait les jugements synthétiques a priori. Au cours suivant, je discuterai des questions entre guillemets délicates, matérialisme, déterminisme, réductionnisme, unité des sciences, etc. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Bon. Alors, pour Kuhn, reprenons les deux assertions que j'avais signalées la fois passée, j'avais cité la fois passée de Kuhn pour se rappeler. Donc la première, c'est que la notion d'une adéquation entre l'ontologie d'une théorie et sa contrepartie réelle dans la nature me semble, dit Kuhn, par principe une illusion. Il ne doute pas que la mécanique de Newton ne soit une amélioration par rapport à celle d'Aristote ou celle d'Einstein ne soit meilleure que celle d'Einstein soit meilleure que celle de Newton en tant qu'instrument pour la résolution des énigmes. Mais je ne vois dans leur succession aucune direction cohérente de développement ontologique. Alors c'est un peu bizarre cette histoire de développement ontologique, on peut discuter évidemment ce qu'il veut dire, mais un des thèmes qu'on tire de l'historiographie des sciences kuhniennes et de tous ses successeurs, c'est qu'il y a une illusion du progrès, parce que ce qui se passe dans des... Donc Kuhn a cette idée qu'il y a la science normale, et puis à un moment donné, il y a des problèmes, et on change de paradigme, il y a une révolution, on change de paradigme, mais dans le changement de paradigme, tout change. Tout change, en particulier le sens des mots. Il y a une autre chose qui change, c'est la nature des problèmes à résoudre et ce qui compte comme solution. Donc il dit, la science normale, on résout des énigmes, on fait des problèmes, on fait des thèses doctorat, etc. On résout des petits problèmes comme ça, pour s'occuper, mais il n'y a pas, à un moment donné, alors ça il n'explique évidemment jamais de façon très satisfaisante, mais il y a le changement de paradigme, par exemple la théorie atomique ou le remplacement de Ptolémée par Copernic ou la circulation du sang, etc. Vous avez des moments où on regarde les choses autrement, et quand on regarde les choses autrement, tout change, y compris la perception du monde. Et ici, il y a la phrase que je trouve assez typique dans son ambiguïté, d'une certaine façon. Les chimistes ne pouvaient pas accepter la théorie de Dalton, donc la théorie atomique, au vu de ses preuves qu'une grande partie d'entre elles était encore négative. Et donc, après avoir accepté la théorie, il leur fallut forcer la nature à s'y conformer, processus qui, en l'occurrence, prit encore presque une génération. À la suite de quoi, même le pourcentage de composition des composés bien connus se trouva différent. Les données elles-mêmes avaient changé. C'est ici le dernier des sens dans lequel nous pouvons dire qu'après une révolution, les scientifiques travaillent dans un monde différent. Donc le monde n'est pas, il n'y a pas un monde uniforme que nous connaissons de mieux en mieux et qui serait la vue scientifique naïve. Simplement, notre regard sur le monde change parce qu'avant la théorie de Dalton, on donnait les pourcentages de composés chimiques en pourcent et puis on les a donnés en rapport de poids atomique essentiellement. On a introduit des unités, si vous voulez, de poids atomique. Et pour lui, il dit que ça change la façon de regarder les choses. Alors je pense que l'article de Maudlin qui s'appelle « Kuhn et Dante » est assez bon parce qu'il part... Alors, Kuhn, évidemment, a été vu comme un des pères du relativisme, il a été accusé de tout ce que vous voulez, et il s'en est défendu, je pense, relativement sincèrement, même si je pense que dans la structure des révolutions scientifiques, qui, je crois, est un livre qui s'est vendu à 16 millions d'exemplaires, donc ce n'est pas un livre qui n'a pas eu d'impact, il y a énormément de cours, de travaux qui sont basés sur les idées de Kuhn. Et donc, je pense que cette façon de voir les choses... je pense que Maudlin la critique, il commence en prenant un article récent, il est mort maintenant, mais enfin, qui était plus long, donc la structure c'est 62, et donc un article des années 80-90 de Kuhn, où Kuhn se défend, il dit tout ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on change de paradigme, on ne peut pas traduire les choses terme à terme, parce que certains termes dans la physique d'Aristote n'ont pas de traduction dans la physique de Galilée. So what? Je veux dire, ça c'est totalement, ça n'a absolument aucun, il n'y a aucun problème si vous dites ça, vous pouvez parfaitement maintenir l'idée de progrès, et si c'est ça le changement de paradigme, alors pourquoi en a-t-on fait un tel foin? Pourquoi a-t-on attaché tellement d'importance s'il n'y a pas de traduction terme à terme? Et ça c'est une position, si vous voulez, très modérée. Mais la position de Kuhn, qui est plus radicale, c'est cette idée que il n'y a pas de moyen de comparer deux époques, celle avant la révolution, celle après la révolution, parce que tout change, y compris les questions, et y compris les problèmes, et y compris ce qui compte comme solution d'un problème. Alors cette idée que, le but de la science, ça c'est une idée très perverse et que vous trouvez très souvent, même chez les gens qui n'ont jamais entendu parler de Kuhn, c'est que le but de la science c'est de résoudre des problèmes à l'intérieur d'un cadre donné, mais il n'y a pas de but plus général, comme par exemple connaître la vérité sur le monde. Ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas, moi j'ai essayé de défendre cette idée qu'effectivement on cherche à connaître la vérité sur le monde, mais ça c'est un terme qui paraît problématique et... Les gens disent non, ce qu'on fait, c'est qu'on résout des problèmes à l'intérieur d'un cadre donné. Mais le cadre lui-même est considéré comme posé socialement, si vous voulez, n'est pas justifié par quoi que ce soit. Et alors, comme dit Maudlin, si c'était vraiment le cas, pourquoi ne pas simplement résoudre encore plus de problèmes en abaissant les normes de ce qui compte comme une solution? Pourquoi ne pas considérer qu'une analyse quantitative est préférable à une analyse qualitative puisqu'elle est plus facile, une analyse... vague à une analyse précise, etc. Pourquoi fait-on sans arrêt des tests, des théories établies? Puisque là, on ne résout aucun problème. On essaye de vérifier des théories super bien établies, comme la relativité générale. On fait encore des tests pour voir si, après la virgule, si on met 9,9999, certains tests sont quand même encore corrects. Après, on peut encore ajouter des chiffres après la virgule. Et donc, si on le fait, à mon avis, et ça, c'est ce que les scientifiques et les philosophes qui parlent des sciences n'osent pas dire, c'est parce qu'on veut savoir comment le monde est fait, on veut s'assurer que la théorie est vraiment vraie. Mais ça, c'est la façon naïve de parler qui me paraît incontournable, mais qui est devenue presque impolie d'utiliser. Et donc, je pense qu'on va dire, non, vous résolvez les problèmes à l'intérieur d'un paradigme, mais évidemment, vous le faites, mais le paradigme lui-même est justifié ou a des justifications basées sur l'expérience et la capacité qu'il a à expliquer le monde. Ça, c'est un premier problème. Et alors... Il y a le problème de la perception. Il y a le problème du fait que tout change de façon radicale, si vous voulez, quand vous percevez les choses. Et alors, ce que Maudlin répond, je pense, est extrêmement plausible, bien qu'on ne puisse pas faire exactement l'expérience. Il dit, si l'on donnait une roche lunaire à Aristote, il ferait l'expérience d'une roche et d'un objet ayant tendance à tomber. Donc, comment dirais-je, Aristote pensait que le monde sublunaire était d'une nature différente du monde supralunaire. Il ne manquerait pas de conclure que la matière dont est faite la Lune n'est pas foncièrement différente de la matière terrestre en ce qui concerne son mouvement naturel. De même, les télescopes toujours plus puissants veulent voir plus nettement les phases de Vénus, sans tenir compte de la cosmologie préférée par les observateurs. Et même Ptolémée aurait remarqué la rotation apparente d'un pendule de Foucault. Donc le pendule de Foucault, c'est quelque chose qui a montré, si vous voulez, de façon définitive la rotation de la Terre, dans le sens que si vous allez au pôle Nord, vous mettez un pendule, comme la Terre tourne, eh bien, vous allez voir le pendule tourner. Vous n'allez pas voir la Terre tourner, vous allez voir le pendule tourner. Le paradigme de l'observateur peut certes influencer l'expérience qu'il a du monde, mais en un sens qui ne peut jamais être assez fort pour garantir que son expérience s'accordera toujours avec ses théories, sans quoi le besoin de réviser les théories ne se fera jamais sentir. Comme je dis, c'est extrêmement banal, mais néanmoins, je pense que c'est plus ou moins en contradiction avec certains passages que vous trouvez chez Kuhn. Alors, ce que Maudine dit, c'est qu'il y a en fait deux Kuhn. Et si vous regardez la tour, vous verrez deux la tour. Si vous regardez les sociologues des sciences, vous en verrez deux chaque fois. Un modéré et un immodéré. Et les modérés et l'immodéré se mélangent, si vous voulez, dans le texte. Le modéré dit qu'au moment où la révolution a lieu, les preuves qui sont là ne sont pas totalement convaincantes. Et il dit, en général, les gens changent d'avis pour des raisons qui ne sont pas entièrement rationnelles. Il y a des facteurs non rationnels, comme la nationalité de certaines personnes, des préjugés religieux, etc., qui peuvent entrer en compte dans le moment où la communauté scientifique, ou en tout cas certains scientifiques, changent d'avis. Se convertissent, mettons, à l'atomisme, se convertissent au point de vue de Galilée, etc., etc. Et donc, vous avez... ça, c'est le Kuhn modéré. Le Kuhn modéré ne pose absolument aucun problème d'un point de vue épistémologique. Or, comme je l'ai dit, l'intérêt de Kuhn n'est pas simplement que c'est un historien des sciences parmi d'autres. Il a eu un impact immense par rapport aux historiens des sciences, et il le dit, le but de son livre est d'avoir un impact épistémologique et a tendance à, comme je dis, mettre en question la comparaison entre les théories. Ce Kuhn modéré ne pose aucun problème. Il se peut qu'à un moment donné, les changements aient été faits plus vite qu'ils n'étaient totalement... Mettons, Galilée n'avait pas les preuves, il n'avait pas le pendule de Foucault, par exemple, il n'avait pas les preuves qu'on a aujourd'hui, mais on peut dire qu'on a aujourd'hui les preuves qu'on n'avait pas à l'époque, ces preuves sont convaincantes, et le changement au moment où il a lieu était le bon. D'accord ? Ça, c'est le point de vue, de nouveau, du scientifique naïf, et qui, à mon avis, est correct, de nouveau, mais qui n'est certainement pas ce que dit Kuhn, parce que s'il disait ça, alors je ne sais pas très bien quel serait l'intérêt même du Kuhn modéré. D'accord ? S'il était toujours modéré, il serait simplement un historien parmi d'autres qui a fait remarquer qu'à certains moments, certains aspects non scientifiques avait de l'importance. Alors il y a le Kuhn immodéré, et le Kuhn immodéré, c'est celui dont j'ai déjà parlé, qui d'une certaine façon dit que si on fait une analyse sociale, si on fait une analyse de ces changements, on voit que ce sont les facteurs sociaux qui sont en fait déterminants, ou éventuellement psychologiques, mais des facteurs non empiriques d'un point de vue des sciences naturelles, qui sont déterminants, qui font qu'il y a le changement, et une fois que le changement a lieu, bien, c'est comme si... je ne sais pas, vous n'avez pas de lunettes et vous mettez des lunettes, vous voyez les mondes différemment, et vous ne pouvez pas comparer d'une certaine façon. Enfin, les lunettes, ce n'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a un progrès, mais vous voyez les choses différemment, et voilà. Alors, Maudine répond au fait que, en fait, contrairement à l'impression qu'on a chez Kuhn, etc., il y a une expérience immédiate du monde. Il y a même, comme il dit, même Ptolémée va remarquer la rotation apparente du pendule de Foucault, et ça, je pense que ça, c'est... une remarque assez importante. Il n'aurait pas compris pourquoi, dans sa cosmologie à lui, le pendule de Foucault tourne, mais il aurait remarqué au moins l'effet. Et donc, contrairement à ce qui a été dit la fois passée, que les faits qui sont toujours construits, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des faits bruts à un certain moment, que tout observateur, évidemment, il faut qu'il ait la vue, il pourrait être de mauvaise foi, etc., etc., mais qui peut quand même être perçu indépendamment de la cosmologie ou des préjugés de l'observateur. Et alors, il y a une phrase qui est assez méchante, mais qui me paraît assez importante, c'est ce que dit Maudine du Kuhn immodéré. Il dit: qu'en est-il de cette idée vraiment radicale qui veut que le débat entre Ptolémée et Copernic n'a pas été correctement tranché dans un sens objectif? Il se pourrait que le succès et le progrès apparent de la science ne sont qu'illusions, le dernier acte de propagande du vainqueur. Les tenants du paradigme qui a réussi estiment évidemment qu'il est correct, clament au monde sa vérité, il fabrique des évidences en faveur de son exactitude, mais il ne s'agit peut-être là que de la volonté du plus fort et non de la voix de la nature. Alors là, je pense qu'il est assez méchant, mais je crois aussi qu'il a raison. Ici, oh, zut, je suis pas habitué à son ordinateur là-bas. Il est impossible d'imaginer un argument recevable qui nous oblige à accepter une telle conclusion. Après tout, nous disposons d'évidences bien plus fortes, directes et irréfutables, en faveur de la rotation de la Terre, de la circulation du sang et des atomes, que ne le sont les raisons de croire en une épistémologie ou une analyse donnée de la pratique scientifique. Bon, je vais laisser de côté Euripide pour le moment, mais ce qu'il dit, c'est qu'essentiellement, vous devez comparer deux types d'analyses. Vous avez le scientifique qui a ses preuves empiriques. Vous avez le sociologue ou l'historien qui s'intéresse aux luttes de pouvoir, mettons, dans la Royal Society au XVIIe siècle. Il veut expliquer pourquoi une certaine vision du monde s'impose à un moment donné, sur la base d'une analyse de la société ou éventuellement de la psychologie. Ce que dit Maudlin, c'est que les preuves empiriques que nous avons en faveur des sciences naturelles sont infiniment plus fortes que toute analyse, que toute preuve que nous avons en faveur d'une analyse de la société. Et ça, c'est une chose qui est souvent oubliée, qui, à mon avis, est le problème au fond du débat entre les sociologues des sciences et nous, c'est que eux pensent le contraire. Ils pensent, pour des raisons que j'essaierai d'expliquer la fois prochaine, qu'on connaît mieux la société, on connaît mieux l'humain que la matière, que les choses. D'accord ? On se connaît mieux nous-mêmes qu'on connaît le monde extérieur. Ça, je ne le pense pas. Mais c'est ça ce qui est caché, je pense, en profondeur derrière dans le fond du débat. Et je peux vous donner des exemples. Par exemple, il y a un ancêtre de Kuhn qui s'appelait Boris Essen, qui est un historien des sciences soviétiques dans les années 20-30, qui a développé une analyse, si vous voulez, de l'émergence de la mécanique, de la vision mécanique du monde chez Newton, sur la base d'une analyse, on va dire marxiste, de la société anglaise de l'époque. Il dit, voilà, il y a la montée de la bourgeoisie, elle a intérêt à avoir cette vision mécaniste du monde, et voilà la mécanique qui sort. Moi, j'ai eu un débat avec un historien des sciences, et c'était à l'ETH à Zurich, et il s'est mis dans une très mauvaise position vis-à-vis de mes collègues scientifiques, et ça montrait le débat. Il a dit, dans l'étude de la mécanique céleste, on fait ce qu'on appelle une approximation à deux corps, c'est-à-dire Newton étudie le problème du Soleil et d'une planète, et dit les planètes, bien qu'en principe elles interagissent entre elles, y compris d'après ma théorie, on néglige ça. D'accord ? Et il dit, le fait de laisser tomber ça, c'est une décision sociale. Les gens étaient par terre, les physiciens étaient par terre, et le conflit entre les deux visions du monde était typique, parce qu'on pourrait dire que la décision est sociale dans un certain sens, mais le problème, évidemment, c'est que tout le monde sait, on le sait même en détail maintenant, que si on veut tenir compte de ces interactions, on n'en sort pas. Donc, évidemment, c'était une bonne chose de faire cette décision. C'était rationnel, c'est pas simplement social. Nous, on a deux perspectives totalement différentes, si vous voulez, sur les sciences. Et alors, évidemment, ne me demandez pas trop de détails sur les grenouilles, qui est une pièce d'Aristophane, mais quand on voit Euripide dans les grenouilles, le constructiviste peut bien empiler tous ses ouvrages sur un des plateaux de la Balance, et en plus y grimper avec sa famille et ses amis, donc humain. Il reste qu'un Foucault, un Harvey, donc pour la circulation du sang, un Cavendish, aura toujours plus de poids avec un simple bout de papier tiré d'un journal de laboratoire. Bon, c'est pas très gentil, mais je pense que c'est malgré tout correct.
Oui. Sur une, ce que je n'ai jamais très bien compris, c'est qu'il met sur le même pied Aristote, passage à Newton, et Newton à Einstein. Or, pour n'importe quel
physicien, il y a une rupture, c'est ça, Weinberg a écrit un article qui s'appelle... Oui, Weinberg dit qu'il n'y a qu'une seule révolution, c'est le passage d'Aristote à Galilée. Oui. Weinberg a écrit un article. Mais Weinberg s'est intéressé à ça. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que moi, je veux dire, ce n'est pas juste moi qui ai inventé ce problème. Le problème existe vraiment dans beaucoup de milieux. Et Weinberg a écrit un article sur Kuhn qui s'appelle La révolution qui ne s'est pas produite. C'est-à-dire, il pense qu'après Galilée, il n'y a plus de révolution au sens où il y en a une, à l'époque de Galilée ou de Copernic.
C'est une chose qui apparaît évidente pour
oui, je sais, je sais. Oui, mais pourquoi est-ce que le philosophe des sciences, qui est l'héritier de Feyerabend à l'ETH à Zurich, puisque Feyerabend était prof de philo à l'ETH de Zurich, me dit que serait restreindre le problème à deux corps, c'est une décision sociale. Je veux dire, il a choqué tout le monde, enfin, il a choqué tous les scientifiques dans la salle. Et bien, la salle était divisée en deux, mais c'est souvent comme ça. Hein. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'un des principaux anthropologues à l'UCL, notre université, me dit que ceci n'est pas une table, parce que si quelqu'un vient... je ne sais pas, d'une société africaine ou latino-américaine, il va y voir une hutte mal faite ou quelque chose comme ça, il m'a dit ça. Donc, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'expérience. Tu vois, l'expérience immédiate au monde, il conteste l'expérience. Tu vois, à un moment donné, tu dis, oui, mais quand même, le pendule de Foucault, comment vous l'expliquez? Alors, on peut peut-être l'expliquer autrement. Au moins, alors, il faut travailler. Mais il y a une explication, d'accord? Qui est l'explication habituelle. Et si tu dis que tu regardes le monde avec d'une autre façon, d'accord? Cette vision du monde qui est teintée par des préjugés sociaux, économiques, etc., alors, évidemment, il n'y a plus d'expérience immédiate au monde. Ouais, dans un certain sens, c'est vrai que l'expérience immédiate du monde est, dans certains cas, compliquée. D'accord ? Il suffit que tu aies une barbe et puis que tu te rases la barbe, je peux ne pas le remarquer, etc. Donc, ça, c'est vrai que l'expérience est compliquée, mais il reste quand même un lien direct à travers l'expérience. Et donc, c'est un lien qu'il faut défendre, évidemment. Et donc, il y a ce point de vue, si vous voulez... Chez Kuhn, vous avez ce que j'appelle la socialisation de l'idéalisme. Vous l'avez chez beaucoup de gens, vous l'avez chez certains marxistes, vous l'avez chez certains sociologues, etc. La socialisation de l'idéalisme, comme j'avais dit, l'idéalisme, c'est qu'il n'y a pas de monde objectif, il y a simplement notre esprit qui projette des catégories sur le monde. Mais l'esprit kantien était, je ne sais pas très bien ce qu'il était, mais il était d'une certaine façon universel. D'accord ? Avec le développement de l'anthropologie, les découvertes, si vous voulez, l'évolution du monde depuis cette époque, on s'est rendu compte que le point de vue de l'homme blanc occidental, etc., n'était peut-être pas la seule façon de voir les choses, et donc on a d'autres façons de voir les choses. Et si on voit les choses autrement, on va dire c'est une autre culture, une autre société, etc., qui alors projette ces catégories sur le monde, et vit dans un autre monde. Si les chimistes pouvaient vivre dans un autre monde, les Occidentaux peuvent vivre dans un autre monde aussi par rapport à nous. Je veux dire, on peut considérer alors qu'il y a toutes sortes de cultures, et alors, quelque chose avec lequel je ne suis pas en désaccord, mais qui est moral, c'est qu'on considère que ces cultures sont moralement équivalentes, et donc on dit qu'elles sont épistémologiquement équivalentes, ce qui est discutable, et alors on arrive au relativisme. On peut dire que le relativisme, c'est la combinaison de l'idéalisme et de la décolonisation. C'est-à-dire que c'est que le fait qu'on ne regarde plus le monde comme on pouvait le regarder à l'époque du XVIIIe siècle, ou du XIXe siècle, où on ne faisait même pas attention au fait qu'il y avait d'autres points de vue, amène au relativisme, si on accepte l'idéalisme. Mais moi, je ne l'accepte pas. C'est ça le problème. Prenez par exemple quelqu'un, un autre terme que je peux mentionner, c'est Forman. Forman, c'est un historien des sciences qui a fait un article que je trouve vraiment très très intéressant sur l'émergence de la mécanique quantique dans la mythologie Europa de l'après-guerre, la première guerre mondiale. Et bien, de nouveau, il essaye d'expliquer l'émergence de l'indéterminisme en mécanique quantique par l'esprit de découragement des scientifiques dans cette mythologie Europa en Allemagne, en Autriche, etc. Pourquoi les gens étaient découragés? Ben, parce que, c'est pas très joli, mais je crois que ça, cette partie-là est vraie, c'est que la science avait promis à l'Allemagne la victoire dans la guerre. Ils étaient supérieurs scientifiquement à bien des égards aux Français, aux Anglais avant la guerre, et donc ils comptaient sur leur supériorité scientifique pour gagner la guerre. Ils l'ont perdue, et il y a eu une réaction anti-scientifique très très forte dans l'Allemagne de cette époque, à laquelle, dit Forman, les scientifiques s'adaptent et alors deviennent d'une certaine façon plus modestes, et alors viennent avec ces idées d'indéterminisme, que la science ne décrit pas le monde, etc., etc. Mais je ne trouve pas ça convaincant, parce que ce qui n'arrive jamais chez Forman, c'est les expériences. Bon, c'est peut-être un peu vrai dans ce cas-là, à certains égards, dans les commentaires sur la mécanique quantique. Mais alors, il y a un noyau dur qui est expérimentalement vérifié et qu'à mon avis, dont on ne peut pas rendre compte par ce genre de considération. D'accord ? Bien. Alors, bon, ça c'est essentiellement le problème, c'est que si vraiment on veut la bagarre, alors on l'aura. Mais je pense que nous allons gagner. C'est ça en gros le message. C'est un peu méchant, mais c'est parce que parfois on a ce conflit où j'ai déjà vu M. Bruno Latour, par exemple. Latour, il dit, mais on a déjà expliqué la mode, on a expliqué les opinions politiques, on a tout expliqué avec la sociologie, pourquoi on ne peut pas expliquer la science? Bon, j'ai des doutes là-dessus. Bon, mais ça, c'est le genre de conflit. Alors, expliquer, y compris pourquoi les gens pensent telle ou telle chose, indépendamment des données expérimentales. Alors maintenant, je vais passer à Susan Hack avec une métaphore, une longue métaphore, c'est un texte assez long. Moi, je la trouve vraiment, je trouve à la fois Stove et Hack très intéressant. Stove est aussi agressif que Hack, essaye d'être gentil, bien qu'elle est assez ferme, mais in fine, elle n'est pas si gentille que ça. Elle est plus que Modeline aussi, mais elle est vraiment, je trouve qu'elle a vraiment, ce qu'ils écrivent sont vraiment, comme je dis, c'est peut-être un peu, on va voir, c'est peut-être un peu décevant, mais voilà, on va y aller. Alors, elle donne la métaphore du mot croisé. C'est une métaphore assez longue, je vais quand même la lire en détail avec vous. Représentez-vous un scientifique. Que quelqu'un qui travaille sur sa section, dans une énorme grille de mots croisés, s'appuyant sur l'information dont il dispose, il devine la réponse, vérifiant encore et encore si celle-ci concorde avec l'indice et les entrées déjà complétées, qui la croisent, et si ces dernières concordent aussi avec leurs indices de même que les autres entrées. Supposant la probabilité que certaines de celles-ci soient erronées, puis essayant de nouvelles entrées à la lumière de celle-là, et ainsi de suite. La grille est en grande partie vide, mais beaucoup d'entrées sont déjà complétées. Certaines à l'encre quasi indélébile, d'autres à l'encre ordinaire, d'autres encore au crayon plus ou moins appuyé, au point parfois de s'effacer. Certaines sont en anglais, d'autres en swahili, en flamand, en espéranto, etc. etc. Bon, c'est pas moi qui ai choisi le texte avec le flamand, mais elle vit, c'est une anglaise qui vit en Floride, donc... Dans certaines sections, plusieurs longues entrées ont été écrites à l'encre d'une main ferme. Ailleurs, il y en a peu ou pas. Certaines entrées ont été complétées des centaines d'années auparavant par des scientifiques morts depuis longtemps, d'autres la semaine dernière. À certaines époques, en certains lieux, sous peine de renvoi ou pire encore, seuls les mots d'une novlangue peuvent être utilisés. Ailleurs, des pressions s'exercent pour que telles entrées soient remplies d'une certaine façon à l'exclusion d'une autre, ou pour qu'on se penche sur une section complètement vide, plutôt que de travailler sur une partie plus facile et déjà partiellement remplie. Ou pour qu'on ne travaille pas du tout sur certaines sections. Des équipes rivales se querellent au sujet de certaines entrées, les repassant au crayon ou même à l'encre, puis gommant tout, peut-être dans une douzaine de langues et dans un délai déterminé. D'autres équipes coopèrent en vue de mettre au point une procédure pour débiter tous les anagrammes d'un indice long comme un chapitre, ou un appareil capable d'agrandir un indice si minuscule qu'il en est illisible. Ou elles veulent lancer un appel aux équipes travaillant sur d'autres parties de la grille, afin de voir si elles n'auraient pas quelque chose qui puisse être adapté, ou pour se demander si elles sont bien sûres qu'il faut mettre un S ici. Quelqu'un prétend avoir remarqué un détail dans tel ou tel indice que personne n'a jamais vu. D'autres conçoivent des tests pour vérifier si celui-ci est un observateur particulièrement talentueux ou s'il imagine des choses. D'autres encore travaillent pour mettre au point des instruments afin d'y voir de plus près. De temps en temps, des accusations sont portées au sujet d'indices qu'on aurait altérés ou de cases qu'on aurait noircies. Parfois, on entend ceux qui travaillent sur une partie de la grille se plaindre que leur point de vue sur ce qui se fait ailleurs n'est pas pris en compte. Ici et là, une longue entrée qui en croise de nombreuses autres est effacée par un groupe de jeunes turcs qui affirment avec insistance que cette partie de la grille doit être refaite et en turc cette fois naturellement. D'autres encore tentent lettre à lettre de voir si le gallois original ne pourrait pas être préservé. Bon, c'est une assez longue métaphore, et puis je vais en tirer des conclusions, mais le but le titre de l'article est du chapitre, enfin, un chapitre traduit en français, ça s'appelle le bras long du sens commun. C'est-à-dire, la thèse de Haack, c'est que la science est en continuité avec le sens, la méthode scientifique, la soi-disant méthode scientifique est en continuité avec le sens commun. Alors, quand on a dit ça, ce qu'allait moi dans la posture intellectuelle, je crois qu'à part des attaques un peu personnelles, etc., c'est la phrase qui a paru la plus bizarre. Bien que je la maintiens mordicus, mais elle a paru la plus bizarre. Beaucoup de gens pensent qu'on n'a rien compris, etc. Et que la méthode scientifique est radicalement différente de la méthode du sens commun. Et la raison qui est donnée, la seule raison qui est donnée, c'est que les conclusions auxquelles on arrive sont évidemment très différentes. Vous avez l'espace-temps courbe d'Einstein, vous avez la fonction dans la mécanique quantique, vous avez toutes les quantités théoriques en physique qui sont très contre-intuitives par rapport au sens commun. On verra que je pense que ça, ce n'est pas vraiment une objection. Et alors, il y a évidemment le fait qu'on utilise des méthodes qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, comme par exemple des expériences en laboratoire, etc. Mais il m'empêche, je pense, que le raisonnement... Alors, ce que dit Haack, c'est que je ne cherche pas ici à vous refiler une métaphore en guise d'argument, mais je cherche à suggérer par cette histoire de mots croisés que la quête scientifique est plus brouillonne, moins méthodique, que les vieux différentialistes ne l'imaginent, et pourtant davantage contrainte par les éléments de preuve que ne le pensent les nouveaux cyniques. Dans son livre, elle distingue entre les vieux différentialistes, qui sont essentiellement les partisans du cercle de Vienne et Popper, c'est-à-dire les gens qui essaient d'expliquer la logique de la découverte scientifique, qui essaient de formaliser la méthode scientifique, et les nouveaux cyniques, c'est à partir de Kuhn, Quine directement, Feyerabend et des sociologues des sciences, ce qu'elle appelle les nouveaux cyniques. Et elle dit qu'elle est contrainte, mais elle est évidemment pas. Vous n'avez pas écrit la logique du mot croisé, d'accord ? Vous n'avez pas écrit. On a écrit la logique de la découverte scientifique, mais on n'a pas écrit la logique du mot croisé, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de logique du mot croisé. C'est trop compliqué pour être codifié, d'accord ? Et je pense que. Alors elle dit : l'analogie de la grille de mots croisés s'est révélée un guide utile pour des questions d'éléments de preuve, mais d'aucuns pourraient avoir le sentiment qu'eu égard aux questions de méthode est manifestement inutile. Après tout, que dire de la méthode de résolution des grilles de mots croisés, sinon vous devez faire un pari sur certaines entrées à la lumière de l'indice qui lui est associé ? Essayez de voir les autres entrées à la lumière de leurs indices et des entrées déjà complétées. Puis, lorsqu'une entrée qui semble par ailleurs plausible s'avère incompatible avec les autres, que vous ne devez pas y renoncer trop facilement, ni vous y accrocher de façon trop obstinée. Et qu'est-ce que tout cela nous dit de la méthode scientifique ? Sinon que vous devez faire une conjecture informée au sujet de l'explication d'un phénomène qui vous intéresse, puis voir comment elle résiste aux éléments de preuve dont vous disposez et à ceux sur lesquels vous pourriez mettre la main. Puis, lorsque votre conjecture qui apparaît autrement plausible s'avère incompatible avec d'autres éléments de preuve, que vous ne devez pas y renoncer trop facilement, ni vous y accrocher trop obstinément. Je pense que l'analogie est bonne. Elle dit, selon moi, l'analogie est utile. Elle nous guide vers la bonne conclusion. La méthode scientifique est quelque chose de moins formidable qu'il n'y paraît. La recherche scientifique appartient-elle à une autre catégorie que les autres types de recherche ? Non. La recherche scientifique est en continuité avec la recherche empirique de tous les jours. C'est la même chose, mais à un degré supérieur. Y a-t-il un mode d'inférence ou une procédure de recherche auquel tous les scientifiques et seulement eux ont recours ? Non. Il y a seulement, d'une part, des modes d'inférence et des procédures utilisés par quiconque s'enquiert de ce qui est, et d'autre part, des techniques mathématiques, statistiques ou inférentielles spéciales, des instruments, des modèles spéciaux, que l'on retrouve localement dans tel ou tel secteur de la science. Cela ébranle-t-il les prétentions épistémologiques de la science ? Non. Les sciences naturelles sont épistémologiquement distinctes. Elles ont remporté des succès remarquables, entre autres précisément, grâce aux appareils techniques au moyen desquels elles ont élargi la portée des méthodes dont use la recherche de tous les jours. Et alors, je vais terminer. Déjà dans Evidence and Inquiry, qui est un autre de ces livres, j'ai suggéré que les sciences, bien qu'épistémologiquement distinctes, ne sont pas privilégiées. Et ça, c'est la phrase que Sokal et moi citons et qui est souvent prise à partie, qu'il n'y a pas de raison de penser que la science est en possession d'une méthode de recherche spéciale qui ne soit pas à la disposition des historiens ou des détectives ou du commun des mortels. Mais ces premiers et brefs efforts pour décrire la place des sciences naturelles au sein de la recherche empirique en général ont été poliment ignorés par la communauté des théoriciens de la science. Plus tard, je me suis souvenu de l'aphorisme de John Dewey, donc un philosophe pragmatiste américain de début du XXe siècle, selon laquelle la matière et les procédures de la science sont issues des problèmes et des méthodes du sens commun, ainsi que de l'ouvrage de James Conan, Science and Common Sense. Puis, à ma surprise et à ma joie, j'ai trouvé cette remarque de Thomas Huxley, disant que l'homme de science utilise avec une exactitude scrupuleuse les méthodes que nous tous, par habitude et à chaque minute, utilisons sans y faire attention. Dans le même esprit, Albert Einstein, et c'est ça peut-être le plus surprenant, a dit que toute la science n'est rien de plus qu'un raffinement de la pensée tous les jours. Einstein l'a dit de façon, dans sa réponse aux critiques, bon, il y a un livre assez intéressant, si vous intéressez Einstein, qui s'appelle « Philosopher Scientist », où il y a toute une série de gens qui écrivent sur lui et puis il répond. Dans la réponse, il dit ceci à un moment donné, « La science sans épistémologie a supposé qu'elle soit pensable et primitive et brouillonne. Néanmoins, dès que l'épistémologue qui cherche un système clair en a trouvé un, il est enclin à interpréter le contenu de la science à travers son système et à rejeter ce qui n'y rentre pas. Le scientifique, par contre, ne peut pas se permettre de pousser si loin son désir de systématicité épistémologique. Il doit donc apparaître, aux yeux de l'épistémologue systématique, comme un opportuniste sans scrupules. » Voilà. Bon, c'était un peu long comme citation de Hack, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, si vous voulez, une fois que vous comprenez cela, une fois que vous comprenez la continuité entre la science et la vie de tous les jours, la rationalité de la vie de tous les jours, à mon avis, tout c'est clair sur les problèmes, les problèmes qui étaient posés par l'épistémologie, savoir est-ce que c'est le cercle de Vienne qui a raison, est-ce que c'est Popper, est-ce que c'est... Tout ça se résout. Parce que si vous essayez de faire l'épistémologie de la vie quotidienne, vous verrez très bien, vous n'y arrivez pas. Parce que, évidemment, tout dépend du contexte. Supposons que je vais faire quelque chose d'aussi simple que d'aller en train d'ici à Namur. Connaissance que je sais, vous sans doute aussi, sur la structure des gares bruxelloises, je vais aller à la gare du Luxembourg, qui est la plus proche. Et c'est là que partent les trains vers Namur, c'est la plus proche, d'accord. Mais si je ne sais rien, je ne connais pas la géographie de la Belgique, peut-être que d'aller à Bruxelles midi est la façon la plus rationnelle de procéder. Ça dépend de... La décision la plus simple, la plus idiote, je peux dire, c'est la plus grande gare. Peut-être je vais prendre la plus grande gare. Et puis je dis, bon, Namur, c'est plutôt vers le sud, donc pourquoi pas aller à Bruxelles midi. Je sais pas. Bon, les gares bruxelloises sont particulièrement bien pour cet exemple, n'importe quel exemple, vous voyez que ça dépend d'une façon compliquée du contexte. Et si vous essayez d'écrire maintenant des règles qui vous permettent de raisonner, vous voyez que vous n'en avez pas. Et donc tout s'effondre. Si vous voulez, tous les problèmes. Les vieux différentialistes, comme dit Hack, évidemment essayaient une tâche impossible, et ils ont échoué, mais so what? Bien sûr, les autres ont montré qu'ils avaient échoué. Ça, je concède à Kuhn, Feyerabend, etc., d'avoir montré qu'ils avaient échoué. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est que ces arguments-là mettent en doute, et c'est ça ce qu'ils ont fait dans la culture, mettent en doute la validité des théories scientifiques. Parce que quand vous lisez les épistémologues qu'elle appelle les nouveaux cyniques, leur cible à eux, c'est toujours les vieux épistémologues, les différentialistes. Mais jamais ils ne discutent des arguments d'Einstein, de Galilée, de Darwin, etc. Or, dans les livres de ces gens-là, même dans les livres premiers, les premiers livres de Galilée, de Harvey, de Darwin, etc., il y a des tonnes d'arguments qui sont assez en continu, tu es, avec la recherche de la vie quotidienne. Et donc, le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a rien dans la mise en question de l'épistémologie classique qui devrait mettre en question la fiabilité des sciences, bien que c'est l'effet qu'elle a eu. Alors, le problème, donc, il reste, si vous voulez... Alors, quand, par exemple, des scientifiques se critiquent entre eux, si vous regardez les critiques des scientifiques entre eux, ben, en général, les critiques sont toujours spécifiques. Ils ne disent pas « Vous n'avez pas suivi la méthode scientifique, ça n'arrive jamais. » D'accord ? Ça n'arrive presque jamais. Enfin, ça arrive quand vraiment on trouve qu'il exagère, les données sont fausses, tout est bâclé, etc. Alors on dit, mais c'est pas scientifique ce que vous faites. Mais en général, on dit, mais non, là, vous faites cette inférence, mais peut-être qu'il y a d'autres explications, etc. Vous êtes dans la grille de mots croisés, vous dites, non, c'est pas un S, là, c'est autre chose, etc. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est évidemment ce que font les plombiers, les enquêteurs, les journalistes. Tout le monde dans la vie quotidienne fait le même genre de raisonnement. Il n'y a pas de méthode privilégiée de raisonnement. Alors c'est ça ce que je dis. Ce que je dis, le message aujourd'hui est un peu décevant. Il est un peu décevant si vous n'avez jamais entendu parler de de ce débat épistémologique, si vous voulez, de relativisme et toutes ces choses-là, un peu décevant, parce que finalement, il dit ce qu'aurait dit ma grand-mère. Mais le problème, c'est que si vous faites le tour de l'histoire des sciences au XXe siècle, au début du XXIe, alors vous voyez que, d'une certaine façon, on réhabilite le point de vue de ma grand-mère, mais le problème, c'est qu'il avait été fort contesté, à la fois par les différentialistes et par les cyniques. Parce que les différentialistes, le vrai défaut du cercle de Vienne, de Popper, etc., c'est d'avoir cru que la science, et évidemment, ils avaient un espèce de culte de la science, c'est d'avoir cru que la science était une activité séparée de l'activité rationnelle de la vie de tous les jours. Qu'il y avait vraiment quelque chose de spécifique à la science. Et donc, je pense que là, donc, il y a aussi une remarque que je veux faire aussi sur le fait que les conclusions sont en contradiction avec le sens commun. Donc, les conclusions de la science sont radicalement, par exemple, on vous dit les atomes, prenez la table d'Eddington, il vous dira, j'en parlerai peut-être la fois prochaine, il vous dira la table, en fait, c'est du vide, hein, il y a des atomes, mais il y a que du vide pratiquement. Et ça, c'est la vision scientifique des choses. Mais si vous regardez, si vous lisez les romans policiers, les conclusions sont parfois contre-intuitives. Je veux dire, c'est peut-être un peu moins contre-intuitif, mais ça peut être contre-intuitif aussi. Il y a pas, vous pouvez arriver à des conclusions dans la vie de tous les jours qui peuvent être étonnantes, dans la recherche non scientifique, enfin, je veux dire, qui continue avec la recherche scientifique, mais qui est différente. Alors, il y a le problème de l'usage des termes mathématiques. Ça, on peut m'objecter, et ça, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'elle parle des techniques mathématiques, mais surtout, elle est surtout, en fait, une philosophe des sciences, des sciences de type biologie, géologie, etc. C'est surtout ça, ce qu'elle connaît. Et donc, évidemment, il y a le problème des concepts mathématiques, et ça, j'essaierai d'en parler la fois prochaine. Je ne pense pas que c'est une objection profonde, mais... alors, il nous reste à discuter quand même quelque chose, parce que, je vous avais dit, l'épistémologie, c'est quand même utile. Parce que si vous discutez avec des gens... d'accord. Si vous discutez avec des gens qui croient à l'astrologie ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas nécessairement une bibliothèque avec vous pour donner tous les faits, etc. Vous allez faire des raisonnements de type épistémologique, souvent. La plupart des discussions sur les sciences, en fait, sont des raisonnements. Qu'est-ce qu'il est rationnel de penser? Cette discussion elle-même fait partie de la rationalité, une extension de la rationalité ordinaire. Il n'y a de nouveau pas de vraie épistémologie qui sort du cadre de la rationalité ordinaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut rien dire. Donc, ce que je vais essayer de faire dans la deuxième partie, je vois que je suis un peu à l'avance par rapport à mon plan, mais ça, ce n'est pas nécessairement un problème, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie, c'est qu'il y a des arguments de type sens commun qui peuvent nous donner une idée de ce, de ce que les autres, les différentialistes, donc les... le cercle, etc., voulait instaurer comme une démarcation entre science et pseudo-science, ou science et religion, etc., science et métaphysique. Donc, vous voulez mettre d'un côté la bonne science, de l'autre côté les pseudo-sciences, la métaphysique et la religion d'un autre côté. Et moi, je pense que il y a moyen de dire quelque chose là-dessus. C'est-à-dire, pour le dire en résumé et terminer là-dessus, c'est que le problème des épistémologues classiques, c'était de vouloir faire une distinction radicale entre la science et tout le reste. D'accord ? Et moi, je pense que la distinction entre le physicien et le plombier est une question de degré, mais qu'il y a une différence entre le physicien et le théologien. Et donc, il faut expliquer quelque chose sur la différence entre le physicien et le théologien, même si on ne peut pas expliquer, on ne peut pas trouver de différence radicale entre le physicien et le plombier. Il y a une personne que je connais bien, José, qui me dit que, en fait, tous les constructivistes sont en fait sur la position du cul modéré, à laquelle je n'ai pas d'objection. Mais moi, je prétends sincèrement pas. J'ai eu trop de discussions avec eux, j'ai eu trop de débats. Suzanne Arc, par exemple, qui est très gentille et qui ne veut pas être scientiste, elle ne veut pas être radicale, etc., elle a la même impression, elle a aussi ce débat. Je veux dire, quand on vit quand on vit dans ces milieux, quand on va les écouter, quand on leur pose des questions, etc., moi je prétends que ce qu'on appelle le cul radical, c'est-à-dire que essentiellement la science a été écrite par les vainqueurs et c'est la science des vainqueurs, il n'y a pas de base objective, si tu veux. Ça, je pense que. Et avec des arguments de type que j'appelle la socialisation de l'idéalisme, ça, je pense qu'ils sont là. Mais bon, on doit discuter des textes, on doit s'asseoir pendant des jours et des jours, je ne suis pas sûr qu'on a envie ni toi ni moi de faire l'expérience. Avec les textes, et puis dire, toi tu vas me dire, ils sont tirés du contexte, d'accord, mais il faut alors me donner le contexte, tu comprends?
Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher c'est que l'exposé que tu fais ne suffit pas à comprendre le fonctionnement.
Mais rien ne suffit, tu vois, c'est ça. Parce que rien ne suffit à comprendre les mots croisés. C'est ça le problème. Tu vois,
oui.
Moi, je rejette et l'épistémologie classique qui était insuffisante et l'épistémologie des cyniques qui est tout aussi insuffisante parce que va-t-on comprendre la rationalité de la vie quotidienne. Tu vois, ce que, en fait, si tu réfléchis aux sciences humaines, on viendra à ça la fois prochaine, l'objet réel des sciences humaines devrait être des capacités humaines. Qu'est-ce qui fait que nous puissions voir, entendre, parler, comprendre, etc. D'accord ? Mais si maintenant... J'utilise ma main, c'est un exemple de Chomsky, mais je suis assez d'accord avec ça. Si je prends ma main pour soulever une tasse de café, j'utilise certains mécanismes qui me permettent de soulever la tasse de café, mais que je la porte à mes lèvres ou que je la jette au visage parce que tu m'énerves, ça c'est quelque chose que la science n'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si tu veux, où l'action humaine est trop... Je ne dis pas que les... Je ne veux même pas parler de libre arbitre et tout ça. Je veux dire que l'action humaine est souvent trop compliquée pour être comprise scientifiquement. En tout cas aujourd'hui, peut-être elle le sera un jour, mais le jour elle le sera, alors... La vie sera un peu compliquée. Mais.
Juste une phrase pour préciser, et les points de vue qu'ils ajoutent apportent un éclairage intéressant sur le fonctionnement des sciences.
Oui, si tu t'en vérifies dans les vieux différentialistes. Ils sont un correctif par rapport aux vieux différentialistes, mais ils ne sont pas. Comment dirais-je Moi, je les trouve pires, hein, d'une certaine façon, que les vieux différentialistes. Tu vois? Je les trouve en un sens. Mais je suis d'accord qu'ils ont fait leur beurre, si tu veux, sur les erreurs des autres. Wittgenstein a fait ça aussi. Moi, je pense que c'est des gens qui ont... Wittgenstein était le plus extrême des positivistes, et puis il a démoli le positivisme le plus extrême. D'accord ? Mais ça, est-ce que c'est une façon nette de gagner sa vie ? C'est pas évident. Mais, je veux dire... Le problème, c'est que les autres étaient naïfs, et... Mais bon, il y a Zamora qui veut poser une question, là. Vas-y.
Non, mais c'est juste pour faire la main, parce que je suppose que c'est intéressant de faire un... Par exemple, de faire un lien en fait, d'une certaine façon entre Kuhn et Foucault, par exemple.
Oui.
C'est sûr qu'il y a vraiment des liens assez forts et que, par exemple, Foucault est extrêmement présent dans les sciences humaines et chez beaucoup d'historiens de sciences aussi, c'est quand même quelque chose qui ressort.
Michel Foucault, hein, pas le pendule.
Michel Foucault. Donc l'idée selon laquelle, lui, dans l'analyse des discours, c'est-à-dire que tous les discours qui peuvent être tenus sur une réalité se valent les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus proche de la vérité que les autres, parce que d'une certaine façon, là il prend une position très idéaliste, en fait.
Tu es prisonnier du discours, tu n'as pas de fait, c'est la phrase Nietzschéenne qui te ressort tout le temps, il n'y a pas de fait, il y a que des interprétations. Moi je me suis trouvé devant Vattimo, qui est un heideggerien italien, si on veut simplifier ça, il était à l'Institut de philo chez nous, la salle était archi pleine, et je lui ai posé une question, à la fin il m'a dit, moi je suis resté estomaqué, je n'ai pas réagi, il n'y a pas de fait, de toute façon il n'y a pas de fait, il y a des interprétations. Quelques secondes avant, il avait parlé de quelque chose à propos de Voltaire, j'ai oublié quoi, où il parlait de façon parfaitement factuelle. Alors le problème, et ça c'est le problème que Hacke souligne, elle cite, je ne sais plus si c'est Putnam ou quel autre, chez les philosophes, il y a la partie où ils le disent et la partie où ils le reprennent. Et tu as ça chez Popper, dans les analyses radicales de Popper, où tu as l'impression chez Popper qu'il n'y a aucune induction qui n'est jamais valide, et puis après, il fait quand même des inductions. Je ne sais plus la personne qui était là qui m'a dit que Kant, la fois passée, ce qui l'intéressait, c'était seulement l'espace absolu, mais que Kant s'était intéressé à la cosmologie, oui. Vous avez le Kant qui dit que l'espace et le temps sont des modifications de la sensibilité, c'est des choses qui se passent dans la tête. Vous avez le Kant qui étudie la formation du système solaire, où apparemment, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans sa tête. Et donc, vous avez la partie où il le dit, la partie où il le reprend. Et Vattimo, c'est ça.
Et Foucault le dit pas ce que...
Écoute, je suis désolé, mais Foucault, je te donne un texte qui s'appelle Marx, Nietzsche, Freud, où il dit littéralement il n'y a que des interprétations, des interprétations, des interprétations.
Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une couche supplémentaire à laquelle il faut faire attention. Par exemple, dans les mots et les choses, je fais une analyse parfaite de la classification et de l'origine de la biologie.
Mais dans les mots et les choses, il commence par une classification qui est due à Borges et qui est complètement imaginaire. Ça, c'est aussi un peu bizarre. Et
justement, parce que c'est le point comment naissent les sciences modernes à la fin du XVIe et du XVIIe. Le problème de la biologie est un exemple classique où la classification qui s'impose, qui est toujours valable de nos jours, qui est une des méthodes fondamentales de la biologie, on voit bien qu'il y a un certain relativisme dedans. La notion d'espèce, il y a un certain relativisme. Ça ne veut pas dire que...
Il y a une certaine ambiguïté, disons.
Mais non, et donc ce que Foucault explique, c'est comment on percevoit ce qui est en partie construit, et qui vient de ce qu'il appelle relation savoir-pouvoir, et ce qui est en partie du domaine de... sur lequel on peut se mettre d'accord, donc il n'est pas relativiste.
Pour cela, il faudrait qu'il y ait une compréhension, pour faire le partage, tu vois. Moi, je prétends pour faire le partage entre ce qui est réellement contraint par les données empiriques et ce qui est dû à la société, il faut avoir une compréhension de la société que nous ne possédons pas, une compréhension de l'être humain que nous ne possédons pas, et une compréhension aussi de la science, des évidences empiriques en faveur de la science que eux ne possèdent pas. Alors, parce qu'il faut aussi te rendre compte que tu parles avec des historiens et des sociologues des sciences, mais qu'une culture scientifique au sens des sciences de la nature qui est très faible. Alors, eux vont te dire, je te dis, le type qui me dit, bon, la décision, le problème à deux corps, se restreindre à deux corps dans la mécanique de Newton, c'est une décision sociale. En quoi est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi le génie de Newton d'avoir résolu le problème, parce que même le problème comme ça, il n'est pas si simple à résoudre. Alors, on voudrait qu'il résolve avec n corps, ce qu'on ne sait toujours pas faire aujourd'hui. Je veux dire, non, écoute, on ne va pas faire la discussion, parce que sinon c'est une discussion entre toi et moi. Bon, je sais que ça dure depuis... Mais bon, il faut quand même que je passe à autre chose. Bon, je vais alors passer à ce qui remplace le critère de démarcation. Je vais pas... Donc, je vais me baser, alors maintenant, un argument de sens commun que j'aime beaucoup. Je l'utilise peut-être un peu trop, mais c'est Tim Modlin, d'ailleurs, qui me l'a signalé. C'est l'argument de Hume sur la croyance au miracle. Alors, Hume a un argument dans l'essai sur l'entendement humain, pourquoi il ne faut jamais croire au miracle. Et ça s'étend, à mon avis, à beaucoup de choses. Et je vais, simplement pour des raisons historiques, commencer par la façon dont lui présente son argument, où il fait référence à un monsieur Tillotson, qui était un théologien, je suppose, anglican, et qui est devenu archevêque de Canterbury. Et ce théologien voulait réfuter la doctrine de la présence réelle. La doctrine de la présence réelle, pour ceux qui auraient oublié, c'est l'idée que lors de l'Eucharistie, l'hostie devient littéralement le corps du Christ et le vin devient littéralement, pas métaphoriquement, j'insiste là-dessus, c'est littéral, pas métaphorique, et c'est encore comme ça pour l'Église catholique aujourd'hui, mais bon, les protestants ne croyaient pas à ça, et l'argument est le suivant. Il dit, dans les écrits du docteur Tillotson, un argument contre la présence réelle, qui est aussi concis, aussi élégant et aussi fort qu'aucun argument que l'on puisse concevoir contre une doctrine si peu digne d'une réputation sérieuse. Il est reconnu de tous côtés, dit ce savant prélat, que l'autorité, soit des Écritures, soit de la tradition, est essentiellement fondée sur le témoignage des apôtres, qui furent témoins de ces miracles de notre Sauveur, par lesquels il prouva sa mission divine. Pour nous donc, l'évidence de la religion chrétienne est moindre que l'évidence de la vérité de nos sens. Et ça, c'est le point. Parce que, même chez les premiers auteurs de notre religion, elle n'était pas plus grande. Et il est évident qu'elle doit diminuer en passant d'eux à leurs disciples, et personne ne fait reposer sa confiance sur leur témoignage autant que sur l'objet immédiat de nos sens. Car une évidence plus faible ne peut jamais détruire une évidence plus forte. Et ainsi, même si la doctrine de la présence réelle n'avait jamais été aussi clairement révélée que dans les Saintes Écritures, il serait directement contraire aux règles du juste raisonnement que de lui donner notre assentiment. Elle contredit les sens, bien que les Saintes Écritures et la tradition sur lesquelles on a supposé édifier ne portent pas une évidence aussi grande que celle des sens. Quand on les considère simplement comme des évidences externes, et quand elles ne sont pas mises dans notre cœur par l'opération directe du Saint-Esprit. Ma dernière phrase montre qu'il était peut-être plus prudent que sincère, parce que le livre est très comique, parce que dans le livre, il détruit tous les arguments pour l'irrationalité, la superstition, la religion possible et imaginable, et à la fin, il dit, mais nous, on n'a pas besoin d'arguments parce qu'on a la foi. Mais ce n'est pas tout à fait évident qu'il était sincère, mais il était probablement prudent. Bon, et donc l'argument, c'est que vous ne pouvez pas faire... Si vous ne pouvez pas croire quelque chose qui contredit vos sens... quand la personne qui vous le dit se base elle-même in fine sur ses sens. Donc là, la présence réelle, vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez avec l'Eucharistie, l'hostie, après l'Eucharistie, vous le voyez à manger, enfin, ça j'ai fait ça dans mon jeune temps, et vous pouvez la disséquer, enfin, ça j'ai pas fait d'expérience chimique parce que c'était pas autorisé, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous verrez toujours la même chose que vous verrez pas le composé du corps du Christ. Mais, alors Hume dit, bon, pourquoi doit-on croire? Ben parce que soi-disant, ben alors là, évidemment, il y a une question d'interprétation, ça n'a pas été mis directement dans son cœur à lui, par l'opération du Saint-Esprit. Et donc, il dit, voilà, c'est, c'est ça le... Donc, il y a toujours une... Comment dirais-je? Il y a toujours une plus grande crédibilité des sens par opposition à ce que les gens rapportent quand eux-mêmes se basent sur leur sens. Alors, il généralise l'argument, en fait. Et il dit, rien n'est plus commode qu'un argument décisif qui doit enfin faire taire la bigoterie et la superstition les plus arrogantes et nous libérer de leur prosélytisme impertinent. Ça, c'est la partie très optimiste de Hume. Je me flatte d'avoir découvert un argument de semblable nature qui, s'il est juste, mettra auprès des sages et des savants en échec de façon durable les illusions superstitieuses et qui, par conséquent, sera utile longtemps, tant qu'il y aura un monde. Car aussi longtemps, je présume, on trouvera des récits de miracles et de prodiges en toute l'histoire sacrée ou profane. Ça, c'est la partie pessimiste et probablement réaliste. Alors, quel est l'argument de Hume? C'est une variante de l'argument de Tillotson. Il dit simplement ceci. Donc c'est sur les miracles. Hein. Il dit, si vous voyez un miracle, alors c'est à vous de décider si vous êtes
si vous voyez, si vous êtes sobre, si vous n'avez pas une hallucination, etc. Mais ça, c'est vrai, si vous voyez directement. Et là, bouf, la Vierge Marie m'apparaît, elle vient, elle me parle, me dit que je n'ai pas été gentil avec les curés et tout ça. Elle me gronde, elle me parle, elle paraît un être humain, etc. Là, je dois me demander qu'est-ce qui se passe. Un ovni, bouf, un extraterrestre, côté, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai une expérience directe. Mais l'immense majorité des gens qui croient au miracle, qui croient aux guérisons miraculeuses, aux guérisons pseudo-scientifiques, etc. Non, non, on viendra, parce que là, il y a des exceptions, mais on viendra à ça plus tard, mais les miracles, en général, ils en ont entendu parler à l'époque, on en entendait parler à travers le récit de l'Ancien Testament. Mais il faut dire que quand on lit le livre de Hume, on voit que les miracles, y compris des résurrections, étaient extrêmement courants à l'époque. Hein. Donc les gens croyaient aux résurrections de façon assez fréquente. Et donc, le problème, c'est, est-ce que vous allez faire confiance, maintenant, aux gens qui vous disent qu'il y a un miracle. Alors le problème, c'est quel est le phénomène auquel vous assistez? Mais vous assistez à quelqu'un qui vous dit qu'il y a un miracle. Et un miracle fort, on va prendre une résurrection, quelque chose que vous n'avez jamais observé et qui vous semble contraire à toute votre expérience. Maintenant, il y a quelqu'un qui vous dit ça. Alors la question, c'est, est-ce qu'il faut le croire ou bien il ne faut pas le croire? Et alors, le problème, c'est, qu'est-ce qui est le phénomène à expliquer? Ce n'est pas le miracle, c'est que quelqu'un vous dit qu'il y a un miracle. Mais il y a une façon très simple d'expliquer ça, c'est que la personne vous trompe ou se trompe. Souvent se trompe, mais peu importe, l'un des deux. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a des gens qui se trompent ou vous trompent, allez acheter une voiture d'occasion. Donc il y a des gens qui se trompent ou trompent, ça fait partie de votre expérience quotidienne. D'accord? Et donc, si vous êtes... alors, vous avez une expérience immédiate, qui est l'expérience de la tromperie, l'erreur, etc. Et puis, vous n'avez aucune expérience du miracle, par conséquent, dit Hume, la hiérarchie, une hiérarchie dans les explications, dans les causes, d'accord, qui fait qu'il n'est jamais rationnel de croire au miracle, sauf si vous en voyez un directement. Auquel cas, vous pouvez encore vous poser des questions, mais ça, ce n'est pas couvert par l'argument. Je pense que ça, c'est vraiment typiquement un argument que j'aime beaucoup, parce que c'est un argument de sens commun, et je pense que on peut le généraliser. On peut et on doit poser la même question aux garagistes qui vendent des voitures d'occasion, au banquier qui fait miroiter des dividendes fabuleux, j'ai écrit ça avant la crise, au politicien qui promet la sortie du tunnel après des années d'austérité, au journaliste qui rencontre des événements se passant dans les pays lointains, ainsi qu'aux physiciens, aux prêtres et aux psychanalystes. Quels arguments me donnez-vous pour qu'il soit plus rationnel de croire ce que vous dites plutôt que de supposer que vous vous trompez ou que vous me trompez? Vous vous trompez ou vous me trompez? Alors en plus, la longue liste des erreurs scientifiques passées rend le défi du sceptique, c'est ce que j'appelle le défi du sceptique, la question, plus difficile à relever. Ce point mérite d'être souligné parce que les erreurs scientifiques sont souvent invoquées comme arguments indirects par les partisans des religions et des pseudosciences, alors que ces erreurs fournissent en réalité des arguments en faveur d'un scepticisme accru, y compris évidemment à l'égard des doctrines non scientifiques. Alors je vais discuter trois types de propositions et je vais poser la question du sceptique humain. Ce que j'appelle le sceptique humain, ce n'est pas le sceptique sur le monde extérieur qu'on a discuté, c'est le sceptique du type qui dit « Quelle raison me donnez-vous de vous croire plutôt que de croire que vous me trompez ?» D'accord ? Ou vous trompez. Et je vais prendre trois types de propositions qui sont purement symboliques. La matière est composée d'atomes. Certaines substances gardent un effet thérapeutique même après avoir été hautement diluées. Et Dieu est amour. Je veux viser par là, typiquement, une proposition, disons, des sciences naturelles, une proposition de type pseudo-scientifique. Je pense à l'homéopathie. Donc, l'idée, dans l'homéopathie, on prétend qu'après des dilutions très nombreuses d'une certaine substance, dont il n'est pas évident qu'elle a un effet au départ, mais enfin, même si elle en avait un, on dilue tellement souvent, mais un centième de la substance, on dilue, enfin, on mélange, puis on prend un centième, et avec ça, on arrive à battre le nombre d'Avogadro. Il n'y a plus de molécules de départ, en général, après la dilution, enfin ça peut arriver en tout cas, et la théologie, donc, ou la métaphysique. Donc je veux prendre science de ça. Alors, que répond-on aux sceptiques? Que répond-on dans les trois cas? Alors il me semble que pour le scientifique, il y a deux types de réponses. Ah oui, il me semblait bien que je vais de temps en temps regarder mes notes. Il y a une remarque sur Hume qui est importante. C'est qu'évidemment, Hume donne une règle de rationalité. La règle de rationalité est valide, mais ne mène pas nécessairement à des conclusions justes. Par exemple, il donne l'exemple d'un prince indien qui avait rencontré des explorateurs anglais ou écossais qui lui disaient que l'eau gèle en hiver. Et le prince indien ne voulait pas le croire, et Hume dit qu'il a raison, parce qu'il vit dans un climat chaud, il n'a aucune expérience de l'eau qui gèle en hiver. L'eau qui gèle en hiver, ça paraît un miracle si vous n'avez jamais vu ça. Et pourquoi doit-il croire ce type qui vient d'un pays lointain? D'accord? Et il a raison. Et donc, c'est important de voir que vous n'avez pas. C'est une règle de rationalité, ça ne vous dit pas
que vous arriverez à la vérité, évidemment, ça c'est toujours l'éternel problème, c'est qu'il faudra alors des confirmations en très grand nombre, si vous voulez, pour arriver à se convaincre. Et bien sûr, maintenant, ils ont des frigidaires en Inde, ils peuvent voir que l'eau gèle, par exemple. Mais c'est une remarque importante, hein, c'est une règle de rationalité. Alors, qu'est-ce que le physicien peut répondre, ou le biologiste, etc. Il me semble qu'il y a deux réponses qui sont très simples, l'une qui est profane et l'autre, enfin qui est grand public si on veut, l'autre qui est un peu plus technique. La première, c'est l'existence de la technologie. Si on transportait des voitures, maintenant on trouve ça banal, mais des voitures et des avions au XVIIIe siècle, ça apparaîtrait certainement à première vue comme des miracles. Mais contrairement aux miracles rapportés dans la Bible, ce sont des miracles dont on ne peut pas contester l'évidence, on peut les voir. D'accord ? Ils pourraient les voir, les toucher, les utiliser, etc. Ça, c'est un premier argument. Et l'autre, et c'est là où la falsifiabilité ou la... Quel était le terme qu'il fallait que j'utilise ? C'était quoi ? La réfutabilité de Popper intervient, mais pas sous la forme de Popper, c'est les prédictions dans les laboratoires. C'est-à-dire qu'il est tellement difficile, dans un monde tellement incertain, arriver à prédire où va s'arrêter avec une extrême précision une aiguille. Enfin, c'est pas une aiguille, en général, c'est un print-out maintenant sur un écran, un truc d'ordinateur ou un écran d'ordinateur, mais vous avez le résultat d'une mesure qui peut être super précise, et arriver à prédire ça, c'est quelque chose qui est étonnant. De nouveau, c'est quelque chose, si vous me demandez, si vous doutez de la validité de la physique, il y a les technologies, mais alors il y a aussi les expériences, d'accord ? Les expériences, mais que je prends plutôt, de nouveau, du point de vue du sens commun, c'est, si ces gens sont des rigolos, comment font-ils pour prévoir avec une telle précision, et comment font-ils, un scientifique à droit, pas moi, mais un scientifique à droit expérimentateur, pourrait vous faire toutes sortes de tours de magie. D'accord ? Si vous allez au Palais de la Découverte à Paris, hein, vous avez des trucs qui ressemblent à des tours de magie, mais qui sont parfaitement scientifiques. Et donc là, je pense que vous avez deux arguments. Quand il s'agit des pseudosciences ou des médecines parallèles, etc., à mon avis, il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais ça, évidemment, c'est l'objet du débat. Je veux dire, quand il y a des débats, en fait, ils ne portent pas sur l'existence de la méthode scientifique, mais ils portent sur l'assertion qu'il y a effectivement des guérisons et qu'il y a effectivement une efficacité. Alors, ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui me disent qu'eux, ils ont eu, des guérisons avec des méthodes considérées comme non scientifiques, des médecines parallèles, etc. Alors, évidemment, le problème, c'est de savoir ce qui... on se trouve pratiquement dans la situation de quelqu'un qui a une expérience directe de ce que j'appelle un miracle. D'accord ? Moi, je dis que les méthodes homéopathiques, il n'y a rien, c'est de l'eau, et puis la personne est guérie. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est une question... La question est compliquée. La question est de savoir ce que la personne affirme. Si la personne affirme qu'elle s'est trouvée mieux, ça, probablement qu'elle est la meilleure juge. Mais si elle affirme que ça montre qu'il y a une efficacité systématique du produit... Ça, pour moi, ça doit être démontré statistiquement. Et le problème fondamental, c'est toujours celui de la nomenclature. C'est-à-dire, évidemment, si je prétends que j'ai un truc pour guérir un cancer, et quelqu'un vient chez moi avec un rhume et que je lui donne mon produit, après il va mieux, et je dis voilà, j'ai guéri un cancer, ça ne va pas. Il faut une typologie des maladies, évidemment, fixée à l'avance. Ça, c'est l'éternel problème dans les débats qu'on a avec les homéopathes, avec les psychanalystes, etc. Parce qu'ils n'acceptent pas, en général, une typologie. Ils disent que chaque cas est individuel, et donc les statistiques sont impossibles à faire. Et ça, je pense que le sceptique humain peut être sceptique vis-à-vis de cette idée parce que c'est trop facile de biaiser, si vous voulez. Si vous dites que chaque cas est individuel, alors c'est vous qui décidez si la personne a une grippe ou un cancer, et alors c'est vous qui guérissez le cancer quand il y a une grippe, quoi, si vous voulez, pour simplifier. Mais donc, s'il n'y a pas de truc publiquement disponible, moi je pense que l'argument du sceptique est valide dans ce cas-là. Alors évidemment, dans l'histoire des substances gardant un effet thérapeutique, même après avoir été hautement dilué, il y a un exemple qui me paraît instructif, qui est l'histoire de Benveniste. Alors Benveniste est un biologiste français qui était assez réputé, et en 88, donc ça commence à faire longtemps, mais en 88, il a publié dans Nature des expériences tendant à montrer que l'eau gardait la mémoire de molécules avec laquelle elle était en interaction. Ça a fait la première page du Monde. Comme me disait un ami un peu cynique, il y a un théorème qui dit que si une nouvelle scientifique est en première page du Monde, elle est fausse, mais ça a fait la première page du Monde, et ça a fait beaucoup de remous. Et je trouvais que épistémologiquement, même si ce n'est pas profond, c'était assez intéressant de voir comment les gens ont traité du sujet. Parce qu'il a publié dans Nature, et Nature, j'ai parlé au directeur Amadox, qui était directeur de Nature à l'époque, il m'a dit « j'ai perdu mon sang-froid et j'ai cédé ». Je lui ai dit « mais pourquoi tu as laissé publier ça ?» Il a dit Parce que le Benveniste était connu, il a déjà publié beaucoup dans Nature, c'était une autorité, hein, caractère social de la science, et donc il est arrivé à forcer. Mais on a dit, ok, mais après on envoie des enquêteurs dans ton labo. Je ne sais pas pourquoi après, mais enfin, on va envoyer des enquêteurs dans le labo pour voir si les choses se sont passées convenablement, etc. Et après enquête, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça à l'envers, mais enfin, après enquête, ils ont conclu que l'expérience n'avait pas été bien faite, etc. Bon. Mais il y a eu alors un tollé chez certains, pas des scientifiques français, mais chez d'autres, disant qu'est-ce que c'est que cette méthode de flic d'aller envoyer des gens enquêter dans le labo. Et moi, je trouve qu'il y avait deux remarques épistémologiques à faire, et ça, qui n'ont pas été comprises du tout par les journalistes scientifiques, enfin, les journalistes non scientifiques, je ne sais pas, les journalistes de l'époque, parce que ça a quand même fait beaucoup de bruit, c'est que la théorie de la mémoire de l'eau contredit pratiquement tout ce qu'on sait en physique et en chimie depuis des siècles. D'accord ? Alors, évidemment, vous pouvez mettre en question tout ce qu'on dit. Einstein, jusqu'à un certain point, le fait. Darwin, jusqu'à un certain point, le fait, etc. Mais si vous voulez renverser tout ce qui se fait depuis des siècles et qui est bien établi par des milliers et des milliers d'expériences, il faut autre chose qu'une expérience dans un labo parisien faite par une personne, etc. D'accord ? Et ça, c'était quelque chose qui a échappé aux gens. Et l'autre truc qui est plus subtil, mais qui me paraissait aussi un argument de type humain, de sens commun, c'est pourquoi on n'a pas reproduit son expérience. Quand on a découvert, par exemple, la supraconductivité à haute température, on l'a découverte, je ne sais plus où, et puis, après 3 semaines, on l'a reproduite en Chine, en Belgique, etc. Parce que, évidemment, si c'est une découverte révolutionnaire, et la supra haute température était une découverte assez révolutionnaire, il y a, vous n'êtes pas le premier au monde, mais si vous êtes le premier Belge à le faire, vous êtes le premier Belge à le faire, et vous avez votre photo dans le soir, etc. Et donc, vous avez un grain, peut-être. Et donc, il y a une motivation à le faire en Belgique, même si vous n'êtes pas le premier au monde. Mais dans l'affaire Benveniste, il y a eu un silence radio, il n'y a personne qui a reproduit son expérience, qui n'était pas un truc, il ne fallait pas construire un accélérateur du style CERN et tout ça pour faire l'expérience. Et en fait, j'ai parlé à un monsieur, enfin, je ne vais pas dire qui, mais d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais quelqu'un d'université belge, qui m'a dit qu'il avait essayé de faire l'expérience et le résultat était négatif. Alors je lui ai dit, mais il faudrait le publier, mais évidemment il ne veut pas le publier. Pourquoi ? Parce que ça a l'air un peu idiot, d'abord on ne publie pas les résultats négatifs, et ça a l'air un peu idiot d'avoir même essayé, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a essayé. Mais toujours qu'il a le résultat négatif. Et comme il a le résultat négatif, il n'en parle pas. Mais le silence de tous les gens, en supposant qu'il y a des Chinois, des Indiens, etc., qui ont fait la même chose, le silence de tous ces gens-là est un indice contre Benveniste.
Et dans la commission d'enquête, il y avait notamment un magicien, je crois.
Oui, je sais, il y avait un magicien, et c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est un magicien qui est spécialisé dans la critique des pseudosciences. Hein. C'était un magicien, son nom m'échappe maintenant, Randi, c'est ça ? C'est Randi, non ? C'est Randi. Et Randi est un type qui est spécialisé dans le fait de débusquer les tours, tu vois. Et donc, je pense pas que c'était nécessairement une mauvaise idée, parce que, justement, il connaît tous les trucs, et donc il peut voir quand il y a des trucs qui sont mal faits au point de vue expérimental. Mais ça avait choqué beaucoup. Il y avait des articles dans Le Monde, dans Libération, dans l'Humanité, etc., pour dire c'est scandaleux. Non.
Et tu poses la question dans la même phrase. C'est-à-dire, d'un côté, tu prends l'exemple où il faut que d'autres laboratoires revérifient l'expérience, donc la science telle qu'elle se fait. La Nature publie quelque chose de totalement discutable et puis pète les plombs.
Non, il pète les plombs avant.
On voit des magiciens,
un magicien.
Enquête, ce qui n'est pas la science normale.
Alors, oui, mais le truc était tellement spécial.
Et donc, ce qui est choquant, c'est que là, tout d'un coup, on sort de la science normale. Je ne dis pas que Benveniste avait raison, je dis pourquoi est-ce que tout d'un coup ils sont sortis de la science normale et on n'a pas fait ce que tu proposes, c'est-à-dire analyser ces données, essayer de refaire les expériences.
Mais on l'a fait, on l'a probablement fait, tu vois. Bon, ma suggestion, c'est qu'on l'a fait, que les gens n'en ont pas parlé, c'est que le résultat était négatif. Mais tu peux lire.
Quoi ? Il y avait le magicien et le truc avant, tout de suite.
Oui, c'est venu assez vite, mais oui, vas-y.
Moi, je suis en désaccord absolument avec cet argument. Quand un scientifique est devant des pseudosciences, les gens peuvent faire des affirmations continuelles et à grande vitesse. Et le scientifique doit résoudre ces problèmes-là. Quand on se trouve devant des escrocs, eh bien, j'ai vu que l'aide de gens qui savent dénoncer l'escroquerie est essentielle. J'ai vu dans plusieurs cas que c'est un magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui connaît les trucs que l'on utilise pour tromper. Que quelqu'un qui n'était pas un scientifique était plus fort que vous à montrer les trucs utilisés.
Ceci dit, bon,
c'est un escroc.
Non, je ne sais pas si c'est un escroc, ça c'est compliqué, parce que...
Ça ne va pas de dire ce genre de choses-là. C'est-à-dire, Benveniste n'est pas un escroc au moment où il publie son article, au moment où il qu'il ait tort, nous sommes d'accord, le moment où il le fait, c'est un directeur de laboratoire internationalement reconnu.
Je ne suis pas d'accord. Écoute, il y a des gens qui ont des prix Nobel et qui mettent les plombs. Hein.
Je ne suis pas d'accord avec ce
Oui, mais d'accord, mais.
Parce que quand on a une expérience de ce type dans laquelle la plupart des scientifiques se disent c'est impossible ce qu'il a trouvé, il est toujours, c'est une hypothèse importante de se dire la personne en question a peut-être un escroc, il peut être directeur de n'importe quoi. Une fois qu'il y a quelque chose qui va contre un ensemble de données précédentes, eh bien, toutes les hypothèses doivent être prises.
C'est ça, tu dois regarder.
Donc,
tu
peux envoyer un magicien chez Schrödinger, hein, je suis désolé, parce que ce qu'il va montrer est absolument incroyable.
Non, parce qu'il y avait des données. Non, parce qu'il expliquait, je suis désolé, mais Schrödinger. Non, attends, calme-toi. Schrödinger, tu vois, le problème, c'est que quand Schrödinger a inventé, avec Heisenberg, quand il a inventé la mécanique quantique, en l'espace d'un an, ils avaient la solution de l'atome d'hydrogène, par exemple, ils prédisaient le spectre de Balmer, qui était là depuis longtemps. Et donc, ils prédisaient des trucs qui étaient. Et ça, c'était des trucs assez spectaculaires. On parle de 25, 26, 27, en deux ans, comme ça, tout tombe. Il n'y a pas seulement le spectre de Balmer, mais il y a d'autres phénomènes qu'on explique et qui avaient été là justement depuis des décennies, les gens, enfin des décennies au moins depuis, je ne sais pas, le début du siècle, les gens se demandaient comment expliquer et le rayonnement du corps noir, etc.
La stabilité de la matière.
Oui, toutes sortes. Mais je veux dire, c'est très différent parce que là, justement, tu expliques des trucs, enfin, tu les expliques peut-être pas de façon satisfaisante. Moi, j'ai fait un exposé dans cette salle il y a un certain temps sur la philosophie de la mécanique quantique pour la critiquer. Donc, il y a des choses que je n'aime pas dans l'interprétation, pas nécessairement chez Schrödinger, mais chez les autres. Mais tu vois-t-il qu'au moment où, si tu regardes seulement les équations, là, il y a un miracle qui se produit, tu vois, et c'est différent de Benveniste. Alors, pour la petite histoire de Benveniste, quand il y a le bouquin avec Sokal, donc l'affaire c'est 88, moi c'était 97, et donc après, un peu après, en 98, 99, je ne sais plus, j'ai été invité à un débat dans une semaine de la science dans la région parisienne, dans la banlieue parisienne, organisé par un maire d'une ville là, avec Benveniste. Mais ce n'était pas un débat, c'était une conférence en parallèle. Et là c'était très comique parce qu'à ce moment-là, c'était 10 ans après l'affaire, là peut-être que c'est à cause des persécutions, je ne veux pas discuter de ça, mais il avait pété les plombs. Et donc il allait guérir les gens avec des ondes électromagnétiques, et il allait par téléphone, enfin c'était de la folie, quoi. Et moi, j'ai été très poli, j'ai sorti mon argument de Hume sur les miracles, j'ai expliqué ce que je suis en train de vous raconter, et quand la conférence était terminée, j'avais pensé que j'avais convaincu tout le monde était parlé à Benveniste, et personne n'est venu me parler. Bon. Alors, un autre exemple de raisonnement de sens commun, je ne sais pas si ça va vous convaincre, parce que bon, je ne suis pas sûr que je convainc des gens avec le raisonnement de sens commun, mais c'est les ovnis, par exemple. Enfin, les ovnis, je veux bien qu'il y ait des objets volants non identifiés, mais ce qu'on entend d'habitude par là, c'est des extraterrestres qui arrivent ici, etc. Et j'ai un jour écrit, les gens m'avaient demandé d'écrire une préface pour un livre qu'ils avaient fait. Bon, ils avaient étudié tous les trucs, montré pourquoi les données n'étaient pas fiables, etc. Mais il me semble que de nouveau, il y a un argument de sens commun qui me paraît très plausible, mais bon, évidemment, on peut toujours. C'est un exemple où on peut discuter, si vous voulez. C'est que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si les extraterrestres viennent. D'un endroit très lointain, ils viennent ici et ils ne sont pas plus remarqués. D'accord ? Pourquoi ils n'enlèvent pas le flic qui règle le trafic place de Beaucaire ou le roi des Belges ou je ne sais pas quoi ? Pourquoi ils vont faire trois fouilles dans le brouillard à Eupen ? D'accord ? Moi j'avais un prof qui disait moi si j'étais extraterrestre, j'aurais beaucoup envie de visiter la région d'Eupen parce que c'est une belle région, mais il y a peut-être d'autres buts si on traverse cette nuit d'année-lumière, etc. que visiter Eupen, je ne veux pas avec ces gens qui viennent d'Eupen, s'il y en a. Mais, trouvait-il que j'ai trouvé cet argument de sens commun. Alors, j'avais, dans la préface, j'ai dit que quand les Amérindiens ont vu arriver ce qu'on aurait appelé des OFNI, des objets flottants non identifiés, qui étaient des caravelles des conquistadors, il n'a pas fallu qu'ils discutent très longtemps pour savoir si c'est un phénomène réel ou pas, parce qu'après peu de temps, ils étaient morts. Donc, il me semble que si les extraterrestres venaient sur Terre, on le verrait. Mais, bon. On peut, alors ça, c'est là où vous arrivez dans la plausibilité. Il y a des gens qui me disent, tu sais, ils ont une autre psychologie. Bon, ça, c'est Quang Duen. Vous pouvez toujours expliquer, ça, c'est Quang Duen, vous pouvez toujours expliquer tout par des hypothèses ad hoc. Comme dit Quang, vous pouvez toujours maintenir n'importe quelle théorie en face d'une évidence récalcitrante ou d'arguments, comme what may, comme dit, quoi qu'il arrive, d'accord, en inventant des trucs ad hoc en fonction d'eux. Mais ça, c'est évidemment, c'est la nature... C'est la nature. Ça, vous avez aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Vous avez un plombier qui vient chez vous, et une fuite, il prétend qu'il la répare, la fuite est réparée, il rentre chez lui, et vous êtes content, et vous invoquez Quang Duen, vous dites qu'il n'a rien fait, la fuite s'est arrêtée toute seule. Quang Duen, vous ne le payez pas. Je ne sais pas si vous avez gagné au tribunal après ça, mais avec Quang Duen, mais bon. Ne me citez pas comme témoin. Bon.
Alors, revenons à la troisième proposition. Alors, la théologie, la religion. Là, c'est... ça, c'est un vaste sujet. Et moi, j'ai encore assez de temps, en fait. J'ai donné à la fois dans le cours précédent et dans le cours actuel ce qu'on pourrait appeler une réhabilitation du sens commun. Moi, je pense... Donc, j'ai d'abord dit... il y a un monde extérieur à nos sens, on y a accès immédiatement par les sens, etc. On peut connaître en partie la vérité sur le monde, etc. Contre l'idéalisme et contre l'épistémologie, j'ai dit, il n'y a pas de différence entre le physicien et le plombier. Mais si je fais l'apologie du sens commun, qu'est-ce que je vais faire avec la religion? Qu'est-ce qu'il y a de plus commun que la religion, d'accord, dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de plus différent, si vous voulez? Qu'est-ce que... Et pourtant, il y a des gens, enfin, dont moi, mais... Il y a des gens qui disent qu'il y a un conflit entre la science et la religion, et la nature, quelle est la nature du conflit? Alors, comme on est l'année Darwin et qu'on a toutes les discussions à propos du créationnisme, etc., il faut peut-être en discuter. Alors, j'avais pensé, évidemment, j'avais un tabou, mais bon, c'est pas très grave. Dans la religion, il y a trois aspects. Il y a un aspect qu'on peut appeler pseudo-scientifique, un aspect moral ou éthique, et un aspect métaphysique. Alors, j'appelle pseudo-scientifique les assertions sur le monde qui sont du type des assertions scientifiques, par exemple le récit de la Genèse, ça c'est un exemple, ou le récit biblique en général, et les miracles, et les guérisons, etc. D'accord ? Ça, ce sont des assertions que j'appelle pseudo-scientifiques parce que ça pourrait être sur le même plan que les guérisons, par exemple, c'est sur le même plan que les guérisons avec des pseudo-sciences. Ça, c'est l'aspect pseudo-scientifique. Et il y a un aspect métaphysique, j'appelle métaphysique des assertions du style qui ne sont pas en continuité avec les assertions scientifiques, comme par exemple l'existence de Dieu, la vie après la mort, etc. Parce que ce ne sont, pas des assertions, si vous voulez, que vous pourriez tester. Le miracle, vous pourriez tester, en principe, pour voir est-ce que c'est vraiment un miracle ou bien est-ce qu'il y a une explication naturelle, etc. Ou le récit de la Genèse, vous pouvez faire des enquêtes, ne serait-ce qu'archéologiques, je ne parle même pas de toute la théorie de Darwin, etc. Donc là, vous avez un autre domaine. Et puis, vous avez la morale. Corps, aime ton prochain comme toi-même, etc. Alors, vous avez ces trois domaines. Et le conflit, évidemment, avec la science, se pose au niveau de la partie pseudo-scientifique. Et là, le conflit a été évident, clair et constant jusqu'à une époque récente. D'accord ? Il a été évident avec Galilée, il a été avec Buffon, il a été avec... Darwin, etc., il a été jusqu'à une époque relativement récente. Et quand Pie XII dit qu'il admet l'évolution, il dit « mais il y a un premier homme, il y a un saut qualitatif, il y a une âme, etc. » Donc il a introduit une dimension métaphysique, si on veut, mais qui est un peu compliquée, même d'un point de vue... Il y a un léger conflit, si vous voulez, avec l'aspect pseudo-scientifique. Mais ce qui s'est passé, en tout cas, et c'est ça le problème du débat avec les créationnistes ou avec les fondamentalistes, c'est que ce qui s'est passé en Europe... dans d'autres parties du monde aussi, mais surtout en Europe, c'est une régression du discours religieux, enfin j'appelle ça une régression, ils ont battu en retraite, si vous voulez, par les avancées de la science sur l'aspect pseudo-scientifique, pour se raccrocher à l'aspect moral et métaphysique. Et donc, quand j'ai des discussions dans mon université, ou quand j'ai des discussions même avec Mgr Léonard, qui n'est pas créationniste pur et dur, Mgr il se rabat sur la dimension métaphysique et la dimension, vous avez la dimension qu'on ne peut pas aller... on va pas tester l'existence de Dieu, mais on peut essayer d'expliquer si une guérison miraculeuse a vraiment eu lieu ou pas. Hein, et la question de la morale. Alors la question de la métaphysique, c'est que, si vous voulez, la façon dont elle est formulée actuellement, enfin, je suis certain qu'ils essayent de la défendre cette approche, c'est que d'une certaine façon, Dieu est comme une explication scientifique, c'est une explication ultime, ça explique pourquoi il y a de l'être plutôt que rien, pourquoi le monde existe, pourquoi l'homme est là, etc. C'est une façon de... C'est prétendu, en tout cas, par certains, des philosophes avec qui je discute, etc., comme une explication, un peu comme les atomes. Plutôt, les atomes ne sont pas observables non plus. Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas postuler Dieu pour expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, ou pourquoi l'être humain est là? Et si vous prenez, par exemple, la version moderne de ce qu'il faut bien appeler le créationnisme, qui est le dessein intelligent, donc c'est l'idée que, oui, l'évolution a eu lieu comme les scientifiques le disent, mais elle est guidée par Dieu, et il y a des sauts qualitatifs. Ça, vous lisez B, vous lisez
les gens qui argumentent en cette faveur-là, qu'on ne peut pas expliquer par les mécanismes de la sélection naturelle ou par n'importe quel autre mécanisme pensable. D'accord ? Ça, c'est l'argument. Ils disent qu'il y a des choses qui sont d'une irréductible complexité, comme ils disent, et il faut nécessairement une intervention supranaturelle pour expliquer ce genre de choses-là. Alors, il y a deux sortes de réponses des scientifiques. Il y en a, et là tu verras que je ne suis pas du tout Dieu contre Darwin, parce que c'est pas du tout, je ne pose pas du tout Darwin, je pose le sens commun, parce que Darwin, ça va déjà trop loin, si tu veux. C'est plus simple que Darwin, il ne faut pas connaître même Darwin pour répondre à ça. Il y a une, c'est de dire que, on n'a pas d'explication, on en aura un jour, ou bien peut-être la vie vient des trucs extraterrestres, ou peut-être ci, ou peut-être ça. Il y a toutes sortes d'explications scientifiques qu'on donne un peu à la va-vite pour répondre à leurs objections. Mais l'autre, je pense, qui est plus basé sur l'esprit de la science et qui est basé sur la critique de la métaphysique, et là je pense que les positivistes avaient raison, c'est que c'est une pseudo-explication, parce que si on y réfléchit, cette explication ne contraint en rien le monde. Si on était avec 17 bras de chaque côté ou 17 bras d'un seul côté, Dieu expliquerait aussi pourquoi on a 17 bras de chaque côté. S'il n'y avait pas d'atomes, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres lois de la physique, il y avait n'importe quoi d'autre, le monde serait aussi expliqué par Dieu, si Dieu est une explication. Donc Dieu est une explication passe-partout, et ça c'est radicalement différent des explications scientifiques. Et dès que vous avez compris, ne serait-ce que Newton, vous n'avez pas besoin de Darwin, d'origine des espèces, etc., vous avez compris, et ça les matérialistes du XVIIIe siècle l'ont bien compris, vous avez compris le caractère vide de ce genre d'explication par Dieu. Et donc vous avez la critique de la métaphysique qui est là, donc l'aspect métaphysique. Alors il reste l'aspect moral. Alors l'aspect moral, je ne vais pas en parler trop, mais je vais simplement faire remarquer. Donc si vous voulez, la métaphysique c'est vraiment dire... Quand on postule Dieu, dont on n'a aucune propriété particulière, etc., on n'a aucun lien entre les propriétés de cette divinité et les propriétés du monde tel qu'il est, c'est une explication que j'appelle vide, c'est une feuille de vigne de l'ignorance. Mais, si vous prenez la partie morale, alors vous avez quelqu'un comme Stephen Jay Gould, qui est un biologiste, qui a essayé, vous vous rendez compte, le caractère de désespoir des scientifiques américains, pour que Gould, qui est plutôt un type d'origine marxiste, en arrive à ça, il dit, on va faire la paix avec les croyants, avec les fondamentalistes, on va dire, nous on s'occupe des questions de fait, et vous on vous laisse les questions de valeur. Donc on fait la distinction fait-valeur, c'est ce qu'il appelle non-overlapping magistérial, les magistères qui ne s'enchevêtrent pas. Il y a d'une part les jugements de valeur, les jugements de fait. Les jugements de valeur, on laisse à la religieux, les jugements de fait, on les laisse aux scientifiques. Et probablement, il met dans les jugements de fait aussi les jugements métaphysiques, auquel cas il les met de côté. Donc, il dit, foutez-nous la paix avec l'évolution, ou vous la paix avec les valeurs. Bon, en gros. Hein. Mais je pense que cette façon de faire ne marche pas. D'abord, évidemment, on peut discuter si vraiment les religions sont tellement éclairées en matière de valeurs, etc. On a encore vu des exemples avec le pape. Mais ça, laissons ça de côté. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun religieux, et ça, c'est ce que dit très bien Suzanne Hack, il n'y a aucun religieux qui a accepté ce deal. Parce que ça ne marche pas. Si vous acceptez, si vous avez des valeurs, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de récompense dans ce monde, etc. Il n'y a aucune des assertions de fait. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas la Bible, l'historicité de la Bible, il n'y a rien dans les assertions de fait qui restent. Alors d'où viennent ces valeurs? Dans le discours traditionnel, Dieu avait créé le monde, il avait décidé qui était bien ou mal, vous envoyez au ciel et en enfer si vous ne faisiez pas ce qui était bien. Par conséquent, il remplissait tout. D'accord? Mais si vous voulez tout retirer, sauf les valeurs, tout s'effondre. C'est pour ça que c'est très comique que Gould s'est quand même fait critiquer, finalement, après un certain temps, par des gens comme Dawkins, mais il était vraiment quelqu'un qui proposait un compromis que l'autre partie n'était absolument pas prête à accepter. Bon. Alors, comme j'ai, un peu à ma grande surprise, un peu plus de temps prévu, je vais encore prendre deux points. Un qui n'était pas dans mon plan, et puis la question de l'empirisme classique. Le premier point, c'est ce que j'appelle dans un texte que j'ai écrit justement, où je raconte un peu toutes ces histoires de Hume, etc. C'est oui, mais. C'est quel est le. Enfin, quand on se trouve, quel est le problème, si vous voulez, qu'il y a quand on discute, par exemple, avec des gens qui ont des convictions religieuses, on va dire traditionnelles, par exemple créationnistes, on va dire ça, hein, littéralistes. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde chrétien occidental, mais dès que vous sortez de l'Occident, ou de même. Donc il y en a quand même assez bien. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un problème que je ne peux pas résoudre très facilement, c'est qu'eux appliquent leur propre scepticisme, mais ils l'appliquent par rapport à la communauté scientifique tout entière. Et si vous leur dites, mais regardez, on fait des voitures, on fait des avions, venez dans le labo. Ah oui, mais pas pour l'évolution, pas pour la cosmologie. Ça, c'est tout le problème. c'est que dans ces théories-là, je ne dis pas qu'elles ne sont pas scientifiques, mais si vous regardez les théories scientifiques sur lesquelles il y a débat, il n'y a pas de débat en disant que vous n'êtes pas capable de construire des voitures parce que ça, on les voit, ni des bombes, ni rien du tout. Mais il y a débat sur prenons l'évolution particulièrement, c'est ça l'enjeu du débat. Il y a débat, mais le problème avec l'évolution, c'est qu'elle n'a stricto sensu aucune application technologique. Attends, je vais ne bondis pas, je vais répondre. Je vais expliquer ce que je veux dire. Elle n'a pas d'application technologique et elle ne fait pas non plus stricto sensu des prédictions. C'est-à-dire que si tu prends une doctrine que j'ai déjà rencontrée aux États-Unis, qui est du créationnisme un peu sophistiqué, où tu dis que le monde a été créé il y a 6000 ans, mais avec les fossiles comme ils sont, comme on les découvre, avec un monde... bon, mais ils m'ont dit... Non, mais c'est très... Ils trouvent toutes sortes d'arguments. Ils disent, par exemple, c'est quoi une duème de nouveau, si vous voulez. Ils disent, bon, vous allez voir une pièce de Shakespeare, vous voyez le Danemark, mettons, vous voyez le Danemark au XIIIe siècle ou quelque chose comme ça. Le décor a été fait par le metteur en scène. C'est pas littéralement le Danemark, d'accord. Dieu, c'est la même chose. Il a décoré la nature en créant le monde. Il a fait, voulu qu'il soit joli, alors il a mis des fossiles un peu partout, des arbres qui avaient... Chateaubriand, par exemple, dit ça dans Génie du christianisme. J'aurais pu vous apporter la citation. Il dit ça. C'est l'astuce que Chateaubriand, par exemple, trouve dans Génie du christianisme pour répondre aux découvertes qui commençaient en matière de géologie, etc. Et donc, alors tout est. Alors, si vous avez ce. Bon, on peut discuter ce créationnisme de nouveau, l'argument de la plausibilité, mais pourquoi cette date-là et pas une autre? Pourquoi pas cette cosmologie et pas une autre? Pourquoi cette religion et pas une autre, etc. Je ne dis pas que cet argument est bon, mais une fois j'étais avec des philosophes. Des étudiants en philo m'avaient demandé de faire un séminaire, et j'aurais donné ça comme exercice. J'ai dit, vous prenez cette doctrine, qu'est-ce que vous allez critiquer? Vous allez dire, c'est pas popérien, toutes les prédictions sont identiques à ce qu'on fait, d'accord? On retombe de nouveau sur le sens commun, c'est-à-dire, pourquoi cette date-là? Ah, parce que c'est dans tel livre, mais qu'est-ce qui me prouve que ce livre est vrai? C'est ça, finalement, le fond de la discussion. Mais donc, vous avez ce problème, si vous voulez, que bien qu'il y ait beaucoup d'applications de la biologie, on pourrait imaginer que le groupe de gens qui ont étudié l'évolution, qui ont mis ça en route, etc., étaient des gens profondément athées, profondément incroyants, profondément hostiles à la religion, etc., et que d'une certaine façon, ils ont construit leur théorie comme le Kuhn immodéré le voit, et tout ça, c'est une gigantesque construction sociale. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Mais moi, je ne vois pas d'autres arguments, parce qu'après tout, il y a des communautés de bas, parce qu'ils se donnent des diplômes. Les astrologues aussi se donnent des diplômes, d'accord? Il y a des écoles d'astrologie. Donc, ce n'est pas parce que les biologistes font des trucs, ils ont des diplômes, des prix, etc., que c'est sérieux. Vous allez au musée d'histoire naturelle, on vous dit, vous voyez les dinosaures. On dit, pourquoi des étudiants ne veulent pas aller au musée regarder les dinosaures? Regarde, les dinosaures, il n'est pas marqué qu'ils ont 65 millions d'années. Enfin, c'est marqué sur une feuille de papier, mais ce n'est pas marqué sur les os. Vous ne voyez pas ça à l'œil nu. C'est parce qu'il y a des scientifiques qui vous ont dit que, il faut encore les croire. Pourquoi vous les croyez? Ils n'ont pas de technologie. Bon. Alors, moi, j'en ai un argument de continuité, c'est-à-dire, je pense que ces gens-là sont en continuité avec une communauté scientifique de biologistes qui ont fait leurs preuves, comme je l'ai dit, dans les technologies et la prédiction. C'est-à-dire que si ces gens étaient des charlatans, s'il y avait un sous-ensemble des biologistes, exactement ceux qui travaillent sur l'évolution, qui étaient des charlatans, alors ça saurait, et les autres biologistes qui sont des gens sérieux et qui font des médicaments, les dénonceraient comme tels. Grosso modo, ça, c'est le genre de raisonnement que je ferais. Mais essayez de discuter avec des gens qui rejettent le créationnisme, il y a un moment donné, et ça c'est très important à comprendre, où il y a un problème de confiance, d'accord? Et comme je l'ai dit avec l'argument de Hume, à un moment donné, vous dites, pourquoi est-ce que je fais confiance à cette personne plutôt qu'à telle autre? Les constructivistes ont souvent raison quand ils disent, si les étudiants, les élèves à l'école répètent des trucs, disons, orthodoxes par rapport à l'évolution, ben, c'est simplement parce que le prof l'a dit, ils ont cru que c'est le prof, ils n'ont aucune preuve, d'accord? Et on ne leur donne pas de preuve. C'est difficile, on ne peut pas non plus reprocher aux pédagogues de ne pas donner de preuve, parce que c'est très difficile de donner des vraies preuves. Moi, j'ai fait des tas d'expériences de physique quand j'étais à l'école, mais ce n'était pas très convaincant, parce que c'était, surtout quand je les faisais, elles tournaient très mal, et donc c'était plutôt un truc pour engranger le scepticisme, mais il valait mieux ne pas en faire trop, et écouter le prof. Et donc, mais évidemment, je me dis, qu'est-ce que je me disais à l'époque? Je me disais, ben, si c'était fait par des physiciens incompétents, le résultat, mais je dois faire confiance à la communauté scientifique qui fait ça. Et là, il y a un problème politique et psychologique compliqué parce que le problème se pose, et là, c'est ce qui devient, là où il devient politique, c'est que les gens vont vous dire, oui, mais ces gens-là nous sont hostiles, ils sont hostiles à notre croyance, ils sont hostiles, l'Occident est hostile au monde musulman, etc. Vous avez tous les conflits politiques qui viennent, qui font qu'alors on ne fait plus confiance. On ne fait simplement plus confiance à l'ensemble de l'intelligence. Aux États-Unis, on va dire, oui, mais c'est l'intelligentsia libérale, c'est des gens qui sont contre, qui sont pour l'avortement, ils veulent détruire nos mœurs, etc. Et donc, on ne leur fait plus confiance. Je ne dis pas que c'est rationnel, mais il faut comprendre qu'il n'est pas totalement irrationnel de se rendre compte qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Je pense qu'il y a des raisons rationnelles de faire confiance, mais les scientifiques ou les gens qui critiquent les croyants, on va dire, radicaux, souvent sous-estiment le problème de la conscience dans la communauté scientifique, qui pour moi est fondée, mais moi je vis là-dedans. Moi je les connais, je sais qu'il y a des magouilles et qu'il y a des trucs, etc., mais que dans l'ensemble, je pense que ça marche quand même. D'accord ? Mais il y a des gens qui ne le font, qui en sont très loin et qui leur voient comme hostile. D'accord ? Si vous ramassez des bombes sur la tête qui sont faites par des scientifiques occidentaux, peut-être que vous n'êtes pas très bien disposé vis-à-vis de la science occidentale. Et ça, c'est un problème. Alors maintenant, je vais terminer par un chapitre purement historique. Et bon, s'il y a des philosophes, je ne sais pas s'il y a, comme la fois passée, des philosophes, ils vont probablement hurler. Mais je veux, parce que c'est extrêmement simple, je simplifie, mais je pense que c'est quand même important. C'est, donc, ce que j'essaie de réhabiliter dans tout le cours jusqu'à présent, c'est l'empirisme. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'était l'empirisme classique ? Quel était l'empirisme tel qu'il était chez Hume et tel qu'il était après dans le positivisme logique, le cercle de Vienne, chez Russell, etc. Quel était le fond du débat ? Alors je pense qu'il y a deux distinctions qui sont faites entre deux types de propositions. Bon, ça c'est des trucs qu'on trouve chez Kant, hein. Et c'est essentiellement l'empirisme, je la vois comme se définissant, en tout cas l'empirisme moderne, en réaction à Kant. D'accord ? Et Hume c'est compliqué, parce que Hume s'est réveillé Kant de son sommeil dogmatique. Mais donc la première distinction c'est entre analytique et synthétique. On dit qu'une proposition est analytique si elle est vraie par définition, si elle est tautologique. Par exemple, je ne sais pas, demain il va pleuvoir ou pas pleuvoir. D'accord ? Et synthétique c'est tout le reste. D'accord, c'est des propositions qui ne sont pas vraies par définition. A priori, c'est un moyen de connaître. A priori, c'est ce qui est connu indépendamment de l'expérience. Je sais qu'il est vrai que demain, il va pleuvoir ou pas pleuvoir, indépendamment de l'expérience. Si je dis qu'il va pleuvoir demain, j'ai probablement besoin d'expérience. D'accord ? Bien qu'en Belgique, il n'y a plus beaucoup besoin d'expérience. Mais a posteriori, c'est des trucs qui ne sont pas connaissables, indépendamment de l'expérience. Donc il y a une distinction, si vous voulez, entre les deux. Mais c'est important de voir que la nature des propositions n'est pas exactement la même chose que les façons de les connaître. L'une porte sur la nature des propositions, l'une dit quelque chose sur le monde, d'accord ? Et l'autre dit quelque chose sur la façon de connaître les propositions. C'est pas la même chose. L'une détermine le type de proposition par rapport au monde, est-ce qu'elle est triviale, banale, tautologique, etc. Ou bien est-ce qu'elle est, d'une certaine façon, non triviale ? Et alors, comment est-ce que je les connais ? Est-ce que je les connais a priori ou a posteriori ? Et ce qui est célèbre chez Kant, c'est l'assertion que la science requiert des propositions synthétiques a priori. Et toute la discussion, Schlick par exemple, disait que l'empirisme était défini par le rejet du synthétique a priori. Et donc, moi je dis que l'empirisme, c'est l'équation synthétique égale a posteriori, ou si vous voulez, le rejet des synthétiques a priori. Alors le problème, c'est, y a-t-il du synthétique a priori ? Quand on admet le synthétique a priori, ça veut dire des propositions que je sais a priori, mais qui ne sont pas tautologiques. D'accord ? Alors, les propositions que je sais a priori, en général, elles sont du type des propositions sur la nature géométrique de l'espace-temps, des propositions sur la causalité. D'accord ? Quand moi j'étais étudiant, on m'apprenait, contre Kant, que la relativité, par exemple, avait détruit l'apriorisme kantien parce que la relativité avait montré que l'espace-temps n'avait pas la structure que Kant imaginait, qui était l'espace-temps de Newton. D'accord ? Ça, c'est un argument typique que les positivistes ont utilisé contre Kant. Je ne sais pas l'évaluer exactement, parce qu'on pourrait peut-être reformuler l'a priori de façon suffisamment générale pour couvrir toutes les versions. Et donc, ma question, effectivement, c'est ça. Si j'ai une proposition synthétique et qu'on ne donne aucune donnée a posteriori, c'est-à-dire aucune donnée dépendante de l'expérience, je vais quand même poser la question, quelles sont les raisons de les croire ? D'accord ? Évidemment, le synthétique a priori ne vient pas de Kant, c'est Kant qui a le mot, mais il a une longue tradition qui est bien connu en théologie, en philosophie, sont les preuves de l'existence de Dieu. Les preuves a priori de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est typiquement une proposition synthétique qui, chez saint Thomas, chez saint Anselme, chez Descartes, est connue a priori. D'accord ? Connue a priori. Descartes prouve l'existence de Dieu par un raisonnement qui ne fait pas appel au monde extérieur, à l'expérience. D'accord ? Enfin, il le prouve entre guillemets, mais typiquement, les preuves d'existence de Dieu, c'était typiquement les raisonnements qui établissaient une proposition synthétique assez importante, à mon avis. L'existence de Dieu, c'est quand même, quoi que j'en pense, c'est quand même quelque chose qui n'est pas un détail, et c'est démontrer, si vous voulez, a priori. Et donc, je sais que je simplifie, je connais les arguments de Quine, etc. Je sais que c'est compliqué, mais je pense que c'est important de comprendre, comprendre ce qui a été classiquement l'empirisme. Moi, je préfère me baser sur l'argument sur les miracles et le raisonnement de sens commun, mais si on veut regarder les débats historiques, c'est que le problème qui s'est posé, si vous voulez, c'est que sont les mathématiques ? Parce que Kant donne comme exemple de proposition synthétique connaissable a priori des opérations arithmétiques ordinaires. Donc 8 plus 15, plus 8 plus 5, c'est égal à 13. Ça, c'est un exemple qu'il donne de proposition qui est synthétique pour lui et qui est connaissable a priori. C'est-à-dire indépendamment de l'expérience. Vous ne savez que 8 plus 5 est égal à 13 indépendamment de l'expérience. Et les empiristes comme Mill, par exemple, se sont embarqués dans une espèce de défense de l'idée que 8 plus 5, après tout, est a posteriori, c'est-à-dire dépend de l'expérience, ce que je ne crois pas. Ça, c'est un type de réponse. Et l'autre, c'est de dire qu'après tout, c'est analytique. Ça, vous avez ça chez Russell. Chez Russell, vous avez l'idée que, après tout, les propositions mathématiques sont en réalité des tautologies. D'accord ? Russell dit quelque part que quand on parle de mathématiques, on est sûr de ce qu'on dit, mais on ne sait pas de quoi on parle. Tandis qu'en science, on sait de quoi on parle, mais on est sûr de rien. Pas dans les sciences naturelles. Et donc, ça, c'est une. Moi, j'ai tendance à penser que toute l'histoire des sciences fonctionne, si vous voulez. Je ne veux pas faire de généralité. Parce que le problème, c'est que les termes sont trop mal définis quand on va au fond des choses pour réellement trancher la question. Mais mon instinct comme scientifique, c'est toujours. Si quelqu'un vient avec une proposition synthétique qui n'est pas une tautologie, il n'a aucune preuve empirique, je dirais pourquoi je dois le croire. Voilà, c'est un peu ça. Évidemment, ce qui complique la discussion, c'est comme je l'ai dit la fois passée, toutes les sciences cognitives ont tendance à croire qu'il y a des mécanismes a priori, c'est-à-dire des mécanismes innés, qui permettent à la connaissance de fonctionner, à la perception de fonctionner, etc. Et donc, il y a de l'a priori, si on veut, au sens où c'est donné indépendamment de l'expérience, qui permet d'interagir avec le monde et de se faire une représentation du monde. Ça, c'est des mécanismes, si vous voulez, de la perception. Et là, Kant, évidemment, avait raison, il y a ce mécanisme, et ils sont a priori dans le sens qu'ils permettent le contact avec l'expérience, mais ce ne sont pas des propositions. Ça, c'est important. Il y a des mécanismes visuels, langagiers, perceptifs, etc., mais ce ne sont pas des propositions. Et un jour, il y avait un ami qui m'a demandé de faire un recyclage pour des profs de philo en France, des profs de terminale, sur la mécanique quantique. Et la discussion, évidemment, c'est presque un théorème en France qu'on va arriver à Kant, donc on est arrivé à Kant dans la discussion et ils sont venus avec le synthétique a priori. Alors j'ai dit, donnez-moi une proposition synthétique a priori. Alors quelqu'un a dit, rien ne sort de rien. D'accord ? Et dans la discussion, d'abord c'est pas une proposition scientifique, on voit jamais ça en science. Mais dans la discussion, c'était assez comique parce que quelqu'un a dit que c'était en réalité une proposition analytique, pas une proposition synthétique. Elle était a priori mais analytique. Et quelqu'un a soutenu qu'elle était synthétique mais a posteriori. Et donc, le problème de ce genre de phrases, c'est qu'on ne sait pas très bien où les mettre. Et c'est ça, l'ambiguïté. C'est pour ça que je ne tiens pas tellement à me battre sur cette discussion, mais si vous regardez l'histoire de l'empirisme, Mill essaye de répondre en disant qu'après tout, les mathématiques sont a posteriori, Russell essaie de dire qu'après tout, elles sont analytiques, etc. Et donc, ça pose une question. Et alors, je vais peut-être terminer par quelque chose qui est un manifeste, si on veut, qui est chez Hume, et qui est à la base, si on veut, du positivisme logique ou de la philosophie, de la positivisme logique. Le positivisme logique voulait distinguer radicalement entre les propositions analytiques, mathématiques, logiques d'un côté qui sont connues a priori, et puis les connaissances de faits qui sont connues a posteriori. Mais on la trouve chez Hume. La non-existence d'un être sans exception est aussi claire et aussi distincte que celle de son existence. Donc il attaque les idées cartésiennes. L'idée que les idées claires et distinctes étant mises dans mon esprit par Dieu sont nécessairement vraies. Alors il dit, si la proposition qui affirme qu'il est, qu'il n'est pas, même si elle est fausse, n'est pas moins concevable et intelligible que celle qui affirme qu'il est. Le cas est différent pour les sciences proprement dites. Alors, par les sciences, ici, il veut dire les mathématiques. D'accord ? Donc, dans notre langage, c'est les mathématiques. Toute proposition qui n'est pas vraie est confuse et inintelligible. La racine cubique de 64 est égale à moitié de 10, c'est une proposition fausse et qui ne peut jamais être distinctement conçue. Mais que César, ou l'ange Gabriel, ou qu'un être quelconque n'ait jamais existé, ce peut être une proposition fausse, mais elle est néanmoins parfaitement concevable et n'implique aucune contradiction. L'existence d'un être, donc, ne peut être prouvée que par des arguments tirés de sa cause ou de son effet, et ces arguments sont entièrement fondés sur l'expérience, donc sont a posteriori. Si nous raisonnons a priori, n'importe quoi peut nous sembler capable de produire n'importe quoi. La chute d'un caillou peut, pour autant que nous sachions éteindre le soleil, ou le souhait d'un homme diriger le mouvement des planètes. C'est seulement l'expérience qui nous apprend la nature et les limites de la cause et de l'effet, et qui nous rend capable d'inférer l'existence d'un objet à partir d'un autre. Et donc ça, c'est, si on veut, une espèce de manifeste, je dirais, déjà très tôt, il ne faut pas attendre le positivisme logique, c'est dans les 16 ou 20 ans de Nantes, qui me paraît résumer très bien la position empiriste contre, évidemment, contre Kant, mais ce n'est pas tellement contre Kant, il écrit contre Descartes, parce que dans l'essai, évidemment, l'empirisme se positionne contre Descartes, qui est le philosophe, si on veut, dominant de l'époque précédente, peut-être pas en Angleterre, mais qui est dominant et pour qui, évidemment,
On part du cogito. Si vous lisez les méditations, c'est assez extraordinaire. Il commence avec le cogito, et puis il invente. Il tire l'idée de l'infini que Dieu doit exister. Et puis il glisse subrepticement que Dieu est bon. Ça, je ne sais pas où il a été chercher. Et puis, mais ça, c'est vrai, il le glisse subrepticement. Et après, il dit quand j'ai des idées claires et distinctes, comme elles viennent de Dieu, elles doivent être nécessairement paix parce qu'elles ne peuvent pas me tromper. D'accord ? C'est assez fantastique quand on y pense comme construction. Voltaire, qui admirait Descartes comme mathématicien, disait que sa philosophie était devenue un agréable roman. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Et je pense que là, vous avez la réponse de Hume, et je pense que la réponse de Hume est essentiellement correcte. Mais moi, je préfère ne pas discuter dans ces termes-là. Je l'ai mis pour signaler que c'est la façon dont, historiquement, le débat s'est fait entre les empiristes et les apriористes. Bon, ben voilà. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que je n'ai pas parlé trop vite, malgré que j'ai vraiment de nouveau parlé un peu trop vite. Mais voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, je terminerai le cours en discutant des questions qui fâchent. Moi, je pensais que José serait d'accord avec moi aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il ne sera pas d'accord la semaine prochaine. Donc le matérialisme, le réductionnisme, le déterminisme, les phrases qui reviennent souvent dans la terminologie sur les sciences et qui provoquent souvent des débats, mais c'est des questions plus particulières. Donc moi, j'ai voulu essentiellement défendre l'attitude de sens commun par rapport au monde extérieur, et puis la méthode scientifique, qu'est-ce que la méthode scientifique signifie. Et donc, comme je le dis, le résumé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de différence essentielle ou intéressante entre le physicien et le plombier, mais il y en a quand même entre le physicien et le plombier d'un côté, le théologien de l'autre. On peut évidemment se poser la question, ah oui, ça c'est peut-être encore une dernière remarque que je dois faire, sur le fait que les religions sont tellement répandues. Mettant de côté les raisons neurophysiologiques que tu m'as envoyées, Pablo m'a envoyé un article, maintenant on est en train de mettre en scène la neurophysiologie de la croyance religieuse, apparemment. Mais bon, mettons ça de côté, il y a évidemment un espèce de dualisme dans l'être humain, parce que les croyants les plus fondamentalistes, quand on leur rend la monnaie, ils comptent, hein, ils vérifient la monnaie. Donc si vous voulez, le scepticisme humain, ils l'ont par rapport au plombier, ils l'ont par rapport à la vie de tous les jours, ils l'ont par rapport aux médicaments quand ils en prennent, etc. Et puis il y a un moment donné où il y a cette croyance, par exemple, au miracle. Mais le problème, évidemment, c'est que les gens... Il y a toujours le problème que j'ai dit de la confiance, d'accord ? Quand les gens vivent dans un certain milieu où les croyances religieuses ne sont pas mises en question parce que c'est la communauté tout entière qui est comme ça, il y a des prêtres, tout est organisé en fonction d'eux, ils font confiance à ceux qui leur disent... d'accord, il y a le problème de la confiance. Le problème, c'est que il y a un moment donné, ils doivent se poser la question, mais est-ce qu'on a vraiment des raisons de faire confiance ? Est-ce qu'ils ont montré quelque chose ? Mais quand on n'a pas la science à côté qui fait des choses réellement miraculeuses et qu'on peut comparer les deux, si on vit dans une société traditionnelle où la science ne fait pas grand-chose d'extraordinaire, il est peut-être concevable de faire confiance, il est concevable, il était plus concevable que dans le monde moderne de faire confiance justement à ces gens qui vous affirment des choses, mais qui ne sont pas radicalement différentes de l'assertion comme quoi la matière est faite d'atomes, que les espèces ont évolué, etc. L'argument pour lequel il faut faire confiance aux gens qui disent que la matière est faite d'atomes, etc., est indirect. D'accord ? Il n'existe pas pour les prêtres dans la société traditionnelle, mais comment est-ce que les gens vont faire la distinction ? C'est ça le problème. Et donc, la religion traditionnelle, le problème du christianisme moderne, comme je dis, on est passé à la métaphysique, puis à la morale, puis à la métaphysique, on ne sait plus ce que c'est. Donc là, ça devient très compliqué. Russell dit, déjà en 125, il a écrit un texte qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» mais il commence par dire « Il faut définir ce que ça veut dire, parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. » Et donc, déjà à l'époque, et dans le monde protestant, et donc dans le monde catholique, maintenant, c'est très difficile. Mais si on prend la version traditionnelle des choses, qu'on appelle littéraliste ou créationniste, alors effectivement, il y a un problème de casser la confiance et d'expliquer pourquoi il y a une différence. Mais c'est pas simple, parce que nous-mêmes, nous faisons confiance aux scientifiques. Pour de bonnes raisons, à mon avis, mais il faut donner un argument. Donc, je prends des questions.